Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord, parce que je trippe sur le sujet simplement, puis deuxièmement, parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée de nutritionniste que j'adore, qui collabore avec moi, Sabrina Lamar, qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente saison. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 12. Aujourd'hui, je m'entretiens avec ma collègue nutritionniste Myriam Baudry, qui, du haut de ses 22 ans, a un bagage impressionnant. Avec elle, je jase de science parce que Myriam est doctorante et passionnée de science en général. Donc, on a abordé le sujet de désinformation, de comment comprendre la science quand elle nous est présentée dans les médias, comment savoir si l'information est crédible ou non, puis est-ce que notre cerveau nous joue des tours pour nous amener à valider l'information qu'on croit vraie versus celle qui va un peu à l'encontre de nos croyances. Donc, est-ce qu'on peut un peu se faire avoir par nos propres schémas et y a-t-il moyen de s'en protéger? Donc, finalement, comment qu'on est en mesure de se faire une tête sur ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les médias, ce que les gens nous présentent sur les médias sociaux? Je pense que c'est un sujet fort intéressant parce que Dieu sait à quel point la désinformation est présente en nutrition. Mais le discours qu'on a, Myriam et Sabrina, en fait, je pense que ça s'adresse à au-delà de la nutrition. Finalement, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Puis, à la fin du podcast aussi, je voulais quand même garder un moment pour qu'on parle de science pure et simple. Donc, si tu es professionnel de la santé, peut-être que cette partie s'adresse un petit peu plus à toi. Donc, quand on regarde des études, qu'est-ce qu'on doit regarder davantage? Pourquoi c'est un piège de s'attarder exclusivement à la conclusion? Est-ce qu'il y a des études qui devraient attirer notre attention plus que d'autres, qui sont plus pertinentes? Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'approfondir le sujet. Donc, avant d'aller plus loin, je te rappelle que la semaine prochaine, donc du 21 au 28 mars, on a une deuxième période de vente pour les formations en nutrition et bien-être J'en mange. Donc, c'est un lot de formations, 10 formations de 90 minutes en ligne, donc que tu peux suivre à ton propre rythme sur différents sujets, donc métabolisme, qu'est-ce que ça veut dire bien manger en 2022, nutrition sportive, le yoga, mouvement intuitif, bienveillance, etc., etc. Et le tout se vend au prix de 235 $ pour les 10 formations. Si tu es professionnel de la santé, il y a plusieurs formations qui peuvent être incluses dans tes unités de formation continue. Et avec le code promo Vanessa, tu peux avoir un rabais de 30 $. Je termine en te disant que, si tu ne l'as pas déjà remarqué, en fait, j'ai pris la décision de recommencer à publier les podcasts de manière hebdomadaire. Donc, je viens de reprendre le boulot temps plein et je suis en feu. Il y a plein de sujets qui me popent par la tête que j'ai envie de discuter avec des gens passionnants. Donc, c'est reparti pour une publication hebdomadaire des podcasts Zone Grise. Fait que j'espère que ça fera ton bonheur. J'ai plein de beaux sujets à venir. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Et sur ce, je vous laisse sur l'épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 8. Donc aujourd'hui, je suis comme à l'habitude en compagnie de ma partner Sabrina. Hello!
Salut Vanessa!
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, on enregistre un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. On est un 8 h vendredi matin aujourd'hui. Est-ce que tu es matinale, Sab?
Du tout, pas du tout. Ah, du tout.
Donc, on va voir si ça fonctionne bien pour toi à cet horaire-ci. Moi, je suis plus matinale que l'inverse, là. Si on me demande d'enregistrer le soir, ça se peut que ça soit un petit peu difficile. Ça, ben, se frotte les yeux, justement, au moment où on se parle. Puis, on reçoit aujourd'hui Myriam Beaudry, qui est nutritionniste. On dirait que le mot qui me vient en tête, c'est scientifique, parce que je t'associe beaucoup à la science. Là, je me souviens plus si c'était à la maîtrise ou au doctorat, tu pourras préciser, mais j'ai laissé Myriam se présenter juste avant, parce que le dernier épisode de podcast, ça a pris comme 20 minutes avant que je mentionne le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de science, de comment développer son esprit critique, de comment savoir si l'information qui nous est présentée est juste ou si on devrait pousser nos recherches. Puis justement, Myriam, elle a un podcast au sujet de la science, fait que ça m'a vraiment inspirée, ce sujet-là qui, je crois, la passionne. Donc, salut Myriam!
Bon matin à vous deux. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Puis c'est drôle, Sam disait qu'elle n'était pas super matinale. Moi, à l'inverse, 8 heures, c'est comme mon peak time où là, j'ai pris mon café, j'ai déjeuné, pris ma douche. Puis là, je suis vraiment toute là. Donc, je vous remercie de vous adapter à mon horaire un peu plus matinal ce matin.
Ah, ben, je vais te dire, Myriam, que je ne m'adapte pas du tout parce que moi, 8 heures, c'est comme le moment où mon coco finit de déjeuner. Puis là, c'est le bordel dans la cuisine. Puis moi, je dois dire, désolée, j'ai un podcast. Papa devra ramasser.
Tu plates, oh mon Dieu. Pauvre toi qui as un podcast à 8 heures le matin.
C'est pratique, finalement. Ouais.
C'était tout à fait parfait. Donc, Myriam, c'est ça. Je disais justement que tu étais nutritionniste. Je sais que tu travailles en recherche présentement, mais peux-tu nous en dire plus, justement, sur ton parcours, tes différents projets? Je sais que tu travailles aussi beaucoup en vulgarisation scientifique. Là, fait que présente-toi là, à notre auditoire.
Oui, donc j'ai fait mon bac en nutrition à l'Université d'Ottawa. J'ai gradué en septembre 2020. J'ai terminé mes derniers stages en pleine pandémie ou quand, tu sais, 2020, tout est encore tellement incertain. Est-ce qu'on peut prendre des stagiaires ou pas dans les hôpitaux, blablabla. Bla, bla. Fait que ça a fini un peu rock'n'roll. Mais c'est ça, après mon bac, j'avais prévu continuer à la maîtrise parce que pendant mon bac, je suis passionnée par la nutrition depuis très longtemps. Puis mes stages, autant en clinique, j'ai adoré ça. En santé publique, j'ai adoré ça. Mais pendant mon bac, j'ai eu la chance de travailler avec une professeure à l'université où je l'ai aidée dans certains de ses projets de recherche. Puis j'ai comme tout découvert cet univers-là. Puis à l'école, moi, souvent, j'étais l'étudiante qui, bon, on apprend des choses et tout ça, des recommandations, mais j'avais toujours le pourquoi en tête de ben, pourquoi c'est comme ça, comment on était capable d'arriver à cette recommandation-là. Donc, j'avais comme ce désir de pousser un peu plus loin, puis la recherche, ben, c'est justement ça. T'sais, c'est de se poser des questions, puis de toujours poser pourquoi pour aller plus loin. Puis c'est ça, j'ai découvert cet univers-là qui est absolument passionnant. Puis j'ai gradué quand même à un jeune âge. Là. J'ai pas fait mon cégep, j'ai été direct du secondaire à l'université. Donc, pour moi, j'étais vraiment... Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai terminé mon bac, je venais juste d'avoir 20 ans, là, donc j'étais vraiment pas pressée de commencer à travailler. Puis, ben j'aimais beaucoup la recherche, fait que ça a comme été un no-brainer de poursuivre au cycle supérieur. Donc, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal sous la direction de la docteure May Farage sur un projet qui étudie l'effet de la supplémentation en acide gras oméga-3 sur la prévention de certains facteurs de risque du diabète de type 2.
Okay.
Ce qui est cool de notre labo, c'est qu'on combine à la fois la recherche clinique et fondamentale. On pourra discuter plus tard de ce que ça implique et tout ça. Mais tu sais, je reste que je suis quelqu'un de très extraverti. J'ai pas été en nutrition au hasard. J'adore la relation d'aide, le contact avec les gens. Donc, tu sais, je travaille avec des participants, mais on a l'aspect fondamental où on fait, tu sais, du labo, là, l'image classique d'un scientifique en sarrau avec sa pipette, ses lunettes et tout ça. Puis c'est là, justement, où est-ce qu'on peut venir plus chercher au niveau de la mécanistique, qu'est-ce qui se passe dans la cellule, dans les tissus. Puis ça vient combler la fameuse question du pourquoi que j'ai toujours en tête. Puis, ben, on a un projet qui est vraiment passionnant, puis j'ai adoré ma première année de maîtrise. Donc, j'ai décidé de faire un passage accéléré au doctorat. Donc, je suis étudiante au doctorat depuis septembre 2021. Puis, c'est ça. Donc là, je peux me plonger pleinement dans le projet sur lequel je travaille actuellement. Donc, je suis encore en début de parcours, mais grosso modo, ça, c'est mon parcours académique. Et là, je baigne dans le monde de la recherche. Puis, en parallèle de la recherche, c'est encore une fois, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tout ce qui est les phénomènes de la désinformation, qu'est-ce qui va amener les gens à croire à des, à des fausses croyances ou tu sais toute la confusion que les gens peuvent ressentir face à l'information en ligne en nutrition, ça m'a amenée à m'intéresser justement à la communication scientifique. Tu sais, à la base, j'ai été en nutrition parce que on va manger en moyenne 3 fois par jour pendant quoi 80-85 ans de notre vie. Donc, je voyais 3 opportunités de faire une différence dans la vie des gens. Et pour moi, que les gens vivent de l'incertitude, de la confusion, même de l'anxiété face à une chose aussi fondamentale qu'on va faire 3 fois par jour, pour moi, c'est absolument inconcevable. Donc, de contribuer à venir peut-être apaiser toutes ces craintes-là, cette confusion-là, ben ça m'a amené justement à commencer à faire de la vulgarisation. J'ai commencé en écrivant des billets de blog pour une autre nutritionniste. Pendant la pandémie, j'ai commencé à être plus active sur Instagram, à faire des infographies, des trucs comme ça. Puis ensuite, il y a le podcast qui est mon propre podcast, Tête à tête avec la science, qui est arrivé l'année passée, va bientôt avoir 1 an. Puis c'est ça, là, je pense que je m'implique un peu tout partout. Puis tu sais, c'est une manière aussi pour moi que la communication scientifique nourrit la doctorante, puis la doctorante va venir nourrir la communicatrice scientifique. Fait que pour moi, c'est deux champs d'activité qui sont très complémentaires. Là. Donc, grosso modo, c'est ça mon parcours et mes projets.
Vraiment cool. De quel âge, Myriam?
J'ai 22 ans.
C'est fou. C'est tellement hot.
Wow,
ouais, si je retourne à mes 22 ans, Seigneur, on y retournera pas trop longtemps. OK. Bon, fait que cela dit, ouais, c'est ça. Moi, quand je t'écoute parler, ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, moi, je suis vraiment passionnée de nutrition et vraiment de l'humain que je dis, tu sais. Puis pour moi, la science, quand tu dis, moi, j'étais la fille, pourquoi, là, tu sais, je me reconnais là-dedans, là, j'étais la tanante qui a toujours la main levée. Fallait que je comprenne. Sauf que pour moi, la science, c'était comme un mal nécessaire. Dans le sens que j'ai toujours trouvé que c'était un peu lourd, mais c'était la manière d'obtenir les fameuses réponses à mes questions. Fait que j'ai jamais été tant attirée par l'aspect ultra scientifique comparativement à toi, mais je pense qu'il faut bien le comprendre justement si on veut bien tirer des conclusions. Fait que pour moi, j'ai toujours vu comme ça. Puis tantôt, justement, avant d'entrer en ondes, là, je parlais de ton podcast un petit peu, puis j'étais comme, ah non, ça, je vais le dire quand on va enregistrer. Parce que justement, tu sais, ton podcast, disant que la science, j'ai toujours trouvé que c'est un mal nécessaire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus, tu sais. Je regardais ton podcast, tête à tête avec la science, puis j'étais comme, ah, c'est cool, mais tu sais, j'étais comme, faut que je l'écoute parce que je sais que je vais apprendre, mais mettons, naturellement, c'était pas mon sujet par lequel j'étais le plus attirée. Mais finalement, en t'écoutant, à chaque fois, j'étais comme, mais c'est donc bien intéressant. Puis tu sais, c'est ça, je te disais tantôt, j'ai écouté un épisode qui était enregistré avec Anthony Bertrand Grenier, qui lui, justement, est philosophe et physicien et... Oui, c'est ça, physicien. Myriam, ton micro n'est pas allumé.
Mon Dieu, je voulais couper le son derrière. mais oui, Anthony, il est physicien, il a un doctorat en physique, puis là, en ce moment, il fait son doctorat en épistémologie, qui est une discipline de la philosophie.
OK, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même un épisode qui est long, là, 2 heures plus, là. Puis j'étais comme tout le long, là, je buvais ses paroles, j'étais comme, c'est vraiment pertinent, super intéressant. Fait que, tu sais, des fois, justement, on a peut-être une appréhension par rapport à la science puis au côté, justement, peut-être un petit peu plus lourd et cartésien que ça peut amener. Mais je pense qu'on a tout intérêt là, à se plonger puis à aller chercher un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Fait que c'est justement le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui parce que, tu sais, même nous, en tant que professionnels, des fois, quand on reçoit de l'information, on ne sait pas trop, tu sais, comment la traiter ou bien, justement, à quel point elle est pertinente, à quel point on peut lui faire confiance. Fait que des fois, il faut aller au-delà de ce qu'on reçoit puis faire la recherche. C'est un travail quand même intellectuel qui demande du temps d'implication que nécessairement pas tout le monde va faire. Fait que comment qu'on fait pour se démêler dans tout ça? Puis la première question, en fait, que j'ai envie de te poser, tu as nommé, tu as adressé la problématique dès l'introduction, mais c'est quoi la désinformation? Puis pourquoi est-ce que c'est aussi problématique dans notre société actuellement?
Oui, bien, en fait, tu sais, je dis souvent désinformation, puis quand justement, à un moment donné, j'avais été fouiller un peu plus la différence entre ces termes-là, tu sais, c'est quoi les définitions officielles de ces mots-là, puis en fait, la désinformation, c'est simplement toute information qui est fausse, mais qui va être partagée délibérément pour induire en erreur. Donc, c'est des tactiques qui sont mises en place pour justement induire le public en erreur, alors qu'à l'inverse, Le mot en anglais, c'est « misinformation », donc je crois que « mésinformation », c'est un mot en français. En tout cas, je m'excuse de l'anglicisme, mais si c'est pas ça, mais la mésinformation, ça va être une information fausse qui est partagée, mais par quelqu'un qui la croit vraie. Donc, c'est comme la petite nuance entre les deux, mais essentiellement, on peut s'entendre pour dire que ce sont des informations qui sont fausses. Pourquoi c'est autant problématique? C'est que c'est pas juste une information fausse qui est partagée de façon innocente. Il y a vraiment des répercussions au niveau individuel et collectif au partage de cette désinformation-là. D'abord, tu sais, ça va contribuer à augmenter l'anxiété, la confusion face à toutes sortes de sujets. Tu sais, là, on parle de nutrition, on parle de santé, tout ça. Bien, ça a un impact directement sur des choix que les gens vont faire au quotidien. Ça peut aussi contribuer à accroître les tensions au sein de la société. Puis, tu sais, je veux pas embarquer sur ce long chemin-là, mais on l'a très bien vu avec la pandémie, tout ce qui s'est passé, comment ça c'est venu, tu sais, créer de la séparation, j'ai pas le bon mot, mais venir créer de la polarisation et tout ça entourant certains sujets, la désinformation ou mésinformation, ça peut aussi contribuer à accroître la méfiance à l'égard des grandes institutions, ça peut venir éroder la confiance qu'on a envers la science, qui ultimement est la base justement de tellement de décisions qu'on va prendre en santé, des politiques de santé publique. Puis la désinformation, c'est aussi une menace à la santé et à la santé publique d'une population. Parce que si les gens ne font pas confiance à l'information qui est relayée par les scientifiques ou qu'ils vont adhérer à des informations qui sont fausses, bien, ça va influencer justement des décisions qu'ils vont prendre au quotidien et qui peuvent leur faire du tort à long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très problématique. Je dirais aussi que l'arrivée des médias sociaux, ça, c'est quelque chose qui a énormément accru ce phénomène-là. Tu sais, avant, je veux dire, quelqu'un qui avait une fausse information à partager, c'est quoi, là, tu donnais une petite lettre à ta colombe qui allait partir, puis là, je caricature, mais tu sais, aujourd'hui, quand une information fausse est partagée, je veux dire, en quelques clics, ça va se répandre comme un feu de paille, ça va voyager très, très rapidement, puis je me souviens plus exactement c'est quoi le chiffre, mais je pense qu'une fausse nouvelle voyage en moyenne 6 fois plus vite qu'une information vraie, quelque chose comme ça, là, tu sais, les fausses informations voyagent beaucoup plus rapidement sur les médias sociaux et donc vont rejoindre beaucoup plus de gens. Puis là, ben après, tu sais, c'est tout un travail de venir démêler tout ça, puis encore une fois, comme je disais tantôt, ben ça accroît énormément la confusion, le public se retrouve confronté à deux informations, puis c'est comme, mais là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, c'est même l'Organisation mondiale de la santé en 2020 qui a déclaré, tu sais, qu'en parallèle de la pandémie, on vit également une infodémie où il y a juste tellement d'informations, puis à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, là, d'avoir autant de la bonne information, mais de la bonne, juste en avoir trop, ça devient juste beaucoup trop envahissant pour les gens qui, c'est ça. Pas facile de se retrouver là-dedans.
Justement, pour ramener ça à notre domaine, tu sais, en nutrition, déjà de prendre la décision, mettons, de modifier ses habitudes de vie, puis de faire des changements, bien, on sait que ça nous demande, tu sais, ça peut nous demander un effort, puis tout. Puis là, après ça, quand on essaie de trouver la bonne information pour faire les bons choix, si justement tout nous semble contradictoire, bien, c'est pas long qu'on va se décourager, tu sais. Fait que peut-être que des fois, on peut avoir une bonne volonté, puis devant justement toute cette cacophonie-là, bien, on finit par baquer, puis se dire, ah, écoute, finalement, je sais tellement plus quoi faire que je vais continuer de faire ce que je faisais, même si c'était peut-être pas adéquat selon mon mode de vie actuel, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que tout ça, ça peut être bien décourageant pour le public. Puis, tu sais, en nutrition, on le vit beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que justement, il y a plusieurs personnes qui se disent experts de la nutrition. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont, tu sais, je dis qu'ils se disent experts de la nutrition, mais c'est pas nécessairement de la mauvaise foi, là. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi passionnées de nutrition sans avoir fait d'études puis qui ont envie de partager, appelons ça la bonne nouvelle. Mais tu sais, c'est eux, ils ont fait des découvertes. S'il y a des choses justement qui ont fonctionné pour eux, ben, ils ont envie d'en faire part justement à d'autres, mais c'est pas nécessairement des recommandations qui sont efficaces pour tous.
Exact. Puis j'allais dire aussi, c'est par rapport à autant la mésinformation, comme tu disais, ou la désinformation, les deux, ça a des impacts négatifs, mais c'est plus l'intention derrière qui vient changer, là.
Ouais, c'est certain. Puis, tu sais, par rapport à, disons, je vais sortir un exemple qui est peut-être réel ou tu sais, ça se pourrait, mais tu sais, disons qu'on a quelqu'un qui a une compagnie de suppléments ou de produits de santé naturelle qui va venir partager de l'information sur ses produits. Qui sait, n'est peut-être pas basé sur des évidences scientifiques, tu sais, va venir partager ça, ce qui peut venir induire en erreur le public et venir influencer leur décision. Mais là, après, le public qui reprend ça puis qui est comme, hey, mon Dieu, tu sais, il y a tel supplément qui est meilleur qu'un aliment entier, blablabla, va venir partager ça. Puis là, tu sais, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça. C'est justement, comme Vanessa disait, vouloir partager la bonne nouvelle. Mais la personne, elle, qui propage la désinformation, tu sais, l'intérêt financier, souvent, ça peut être un moteur assez important. Puis tu sais, là, à chaque fois, je dis, je veux pas aller là, mais il y a tellement d'exemples qui viennent avec des informations, mes informations en lien avec la pandémie. pandémie, toute la désinformation qu'on peut voir par rapport à la vaccination, il y a, tu sais, je pense, 12 personnes qui sont responsables de comme 75 % de la désinformation qui se trouve en ligne par rapport à ça. Puis ces 12 personnes-là ont chacun et chacune des alternatives, entre guillemets, aux vaccins qui vont leur apporter des milliards de dollars. Donc, bref. Mm-hmm. Je vais éviter d'aller down that line, mais en même temps, tu sais, tout ça pour dire que effectivement l'intention derrière ça, c'est quelque chose qui est très important parce que comme Vanessa disait, il y a des gens des fois qui vont partager de l'information, mais il y a pas de mauvaise volonté derrière ça. Il y a des gens qui, comme Vanessa disait, qui sont super passionnés, qui pensent qu'ils ont trouvé une réponse, quelque chose de pertinent à partager. Mais encore une fois, là, ça revient à la capacité d'être capable de bien comprendre la science, comment elle fonctionne, être capable de l'interpréter adéquatement avant de la partager.
Ouais. Ouais. Je me demandais tantôt, tu as dit que la fausse information circulait peut-être 6 fois plus rapidement. Là. Selon toi, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai comme une hypothèse que c'est peut-être plus intéressant vu qu'on a une réponse ciblée ou vraiment
sensationnelle?
Oui.
Ouais, le fait que ça vient susciter des émotions fortes, c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de l'explication qui va faire en sorte que ça va être partagé beaucoup plus rapidement. Puis, tu sais, comme les deux vous dites, ben c'est plus sensationnaliste, ça attire l'œil, ça attire les clics et tout ça. Il y a peut-être d'autres explications, mais je te dirais que le fait que ça vient susciter des émotions fortes, c'est quelque chose qui va venir influencer le fait que ça va se partager beaucoup rapidement. Puis souvent, justement, c'est une fausse information, il y a de fortes chances qu'elle soit différente de ce qu'on pensait a priori et donc on se passe comme « oh my God, il y a quelque chose de nouveau, de fou là-dedans » et donc on est porté à plus le partager.
Mm-hmm. Ouais. Puis pour en revenir justement à l'aspect financier, là, il me semble que c'est quelque chose qu'on voit vraiment, vraiment souvent quand on se met à fouiller un peu derrière les fameux documentaires Netflix. Là,
ah oui!
J'en ai analysé quelques-uns là, sur la nutrition là, pour le plaisir un peu, puis crime que des fois, justement, tu vas fouiller c'est qui a produit, puis la personne est impliquée, tu sais, que ce soit pour, justement, c'est très populaire pour l'alimentation vegan, là, mais souvent, justement, ils ont des grosses compagnies de produits vegan, puis nanana. Puis là, c'est un fléau, parce que, justement, pour en parler, justement, de désinformation par rapport au documentaire Netflix, on dirait que quand tu portes le titre de documentaire, c'est comme si c'était rigoureux et très axé sur la science, puis souvent, justement, ils vont partager certaines études, mais on y reviendra qu'une étude, ça ne veut pas nécessairement tout démontrer. Puis des fois, tu sais, moi, j'ai complètement arrêté d'écouter des documentaires Netflix parce que je me dis, si dans mon domaine, je me rends compte que c'est de la bullshit, genre, mais mettons que j'écoute un documentaire sur quelque chose qui n'est pas du tout mon domaine et où j'ai pas ces connaissances-là un peu pour me backer puis pour me protéger, bien, je vais complètement me faire avoir. Fait que je me dis, je suis mieux de juste pas l'écouter. Tu sais, présente-moi un documentaire Netflix sur la mécanique, c'est sûr que tu m'entourloupes en moins de deux. Là, je vais vendre mon char puis me mettre à promener à vélo, là, mais non, mais sans blague, fait que ouais, voilà. Puis, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus.
Bien, tu sais, le point des documentaires Netflix, c'est vraiment, tu sais, un très, très bon exemple. Puis, tu sais, c'est un exemple qu'on pourra peut-être garder en tête pour des, tu sais, pour répondre aux autres questions qui vont suivre. Mais, tu sais, effectivement, souvent, c'est ça, les gens qui sont derrière ça, on s'est rendu compte après que les producteurs, ben tu sais, eux-mêmes, ils ont leur propre compagnie de produits vegan et tout ça. Puis, tu sais, on peut dire aussi qu'il n'y a probablement pas de mauvaise intention. En tout cas, je les connais pas. Il n'y a peut-être pas de mauvaise intention derrière ça. Puis eux sont très convaincus que c'est ça. Mais une croyance n'est pas la même chose qu'une connaissance. Et c'est pas parce qu'on met un amalgame d'arguments qui pointent dans la même direction que c'est nécessairement le consensus scientifique qu'on a actuellement sur un sujet. Puis c'est ça. Reste qu'il y a un documentaire, tu sais, ça l'a souvent un angle prédéterminé, puis on va aller chercher les informations qui pointent dans cette direction-là. Donc, le fameux cherry picking en anglais ou la cueillette de cerises va aller chercher justement les arguments qui font notre affaire. Puis ça. C'est une chose qui est problématique et à garder en tête, mais il y a quand même des moyens qu'on peut mettre en place pour essayer de se protéger de ces biais-là.
Ouais. Fait qu'avant, justement, de jaser des moyens qu'on peut mettre en place, je pense qu'on avait un peu envie de jaser des médias et comment, qu'on doit recevoir l'information qu'il y a dans les médias. Sab, je pense que tu avais quelque chose à dire là-dessus.
Oui, c'est ça. Étant donné que les personnes les journalistes sont peut-être pas nécessairement outillés là, niveau analyse scientifique et tout ça, est-ce que ce serait une raison de plus de se méfier de ce qui est divulgué dans les médias, par exemple, les grands titres, le journal ou des choses comme ça, là?
C'est vraiment une super bonne question que tu poses, puis tu as soulevé même dans ta question certains des enjeux par rapport au fait de rapporter la science dans les médias. Tu sais, il y a des journalistes scientifiques qui sont formés, que c'est vraiment leur niche justement de couvrir l'actualité scientifique et qui ont habituellement, pour la plupart, ils ont une formation en sciences à la base avant de devenir journaliste, qui leur donne les outils justement pour être capable d'interpréter adéquatement la littérature scientifique et tout ça. Puis j'ai eu cette discussion-là avec une amie qui est journaliste parce qu'on est souvent assez vite pour aller blâmer les médias, blâmer les journalistes et tout ça.
Les pauvres médecins. Et ça, je me demandais, ils doivent
être écœurés. Oui, non, c'est sûr. Puis tu sais, elle m'a quand même apporté des points que je trouvais importants à nuancer que... Tu sais, les journalistes ont un code de déontologie dans lequel ils sont tenus justement de rapporter de l'information qui est vraie. C'est sûr qu'une information peut être rapportée, tu sais, tu peux propager le même message, mais de manière différente, puis il y a peut-être une manière qui va s'éloigner un peu plus de la vérité, mais tu es quand même dans les balises de ce qui est vrai. Puis aussi le fait que c'est pas leur avantage de partager des articles qui sont pas rigoureux, parce que leur crédibilité, c'est ce qu'ils ont de probablement de plus précieux pour justement être capable d'évoluer dans leur carrière. Donc, en discutant avec elle, on dirait que ça m'a amené à nuancer un peu plus mes positions par rapport au travail des journalistes et des médias dans la manière de rapporter l'information. Puis, tu sais, je parlais des journalistes scientifiques qui sont mieux outillés pour ça. Il faut savoir aussi que je pense qu'il y a peut-être une quinzaine de journalistes scientifiques au Québec ou à peu près. Donc, tu sais, c'est vraiment pas une grande majorité qui vont couvrir l'actualité scientifique, qui ont la formation pour le faire et tout ça. Puis il y a quand même un défi aussi dans le fait de couvrir la science, que disons qu'une nouvelle étude qui sort, qui est publiée quelque part, puis qu'on veut justement la rapporter. Parfois, l'université va y mettre un communiqué, tu sais, qui est comme une espèce de petit texte résumé. Le journaliste peut vouloir contacter les chercheurs de l'étude pour avoir plus d'informations, avoir leur avis et tout ça quant à ça. Puis, pour avoir été interpellée quelques fois par des journalistes, souvent, c'est comme, ben, t'es-tu disponible dans une heure pour l'entrevue ou, tu sais, gros max, demain, il faut que je sorte mon article. Donc, ça va vite, on n'a pas toujours le temps. Puis, des fois, ben, tu sais, si t'es tu ne te sens pas à l'aise comme chercheur de répondre à un journaliste, notre crédibilité est importante aussi, mais l'entrevue va tout simplement être déclinée. Parfois, un journaliste peut vouloir aller consulter l'article scientifique pour que son propre article à lui soit bien étoffé, rigoureux et tout ça, mais l'accès à la science, c'est un autre enjeu. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont derrière des murs payants, donc il faut payer pour avoir accès aux articles. Dans les universités payent des sommes effroyables pour avoir accès justement aux journaux scientifiques, ce qui fait que, bon, pendant que je suis étudiante, j'en profite, j'ai accès à pas mal tous les articles que je souhaite avoir accès. Donc ça, il y a tous ces enjeux-là dans le fait de couvrir la science. Et la science est excessivement nuancée. On est dans le gris, la zone grise, comme le porte bien le nom de ton podcast. C'est une chose à garder en tête. Puis, le fait que les médias soient aussi, malheureusement, maintenant plus sous-financés, où est-ce qu'on manque justement de journalistes pour couvrir l'actualité scientifique, où on va davantage dépendre des clics pour les publicités, pour le financement, tout ça, bien, ça fait en sorte qu'on va être porté à présenter quelque chose qui est plus noir ou plus blanc pour venir attirer les lecteurs. Puis, en science, bien, c'est jamais ou à peu près, très rarement noir ou blanc. Et il y a très rarement ou c'est pas presque jamais une étude qui va venir changer complètement une recommandation en nutrition, par exemple. Alors qu'on va nous présenter comme si c'était quelque chose d'absolument révolutionnaire. Fait que, tu sais, il y a tous ces enjeux-là. Puis, effectivement, pour revenir à la question de Sabrina, je me méfie, faut toujours se méfier juste du titre, tu sais, le nombre de gens qui vont peut-être juste s'arrêter au titre puis pas aller lire l'article en dessous. Puis, j'ai un exemple cette semaine qui est tout récent. Puis, c'est drôle parce que ce matin, on parlait d'être matinal ou non. Puis, c'est un article qui disait que nos cafés qu'on boit au quotidien peuvent combattre le mauvais cholestérol. Juste pris de même, c'est comme, wow, cool. OK, fait que mes 1, 2, 3 cafés que je bois vont aider à me protéger. Mais quand on pousse plus loin, l'article en fait, qui est l'article scientifique qui a été publié, c'est de la caféine qui a été mise sur des cellules du foie dans un pétri. Tu sais, fait que c'est là justement où c'est pas faux le titre, mais en même temps, on n'est plus du tout, on n'est plus proche du tout de la réalité puisqu'il a réellement été fait. Fait que c'est ça. Grosso modo, il ne faut jamais s'arrêter au grand titre puis réaliser que dans un article de journal, on ne peut probablement pas aller chercher toutes les nuances puis tous les détails importants de ce qui a été réalisé ultimement dans l'article scientifique.
Puis j'aimerais faire un petit peu de chemin par rapport à ça aussi. Ce que j'aimerais ajouter pour ceux qui nous écoutent, qui est ultra important de garder en tête, c'est que avec même toute la bonne foi du journaliste, puis tu sais, ça se peut que tout ce qui soit relaté soit vrai, que l'étude soit ait été réalisée de manière rigoureuse, les résultats, bon, la conclusion est adéquate, ce qui nous est présenté est parfait, mais une étude ne nous permet pas de tirer une conclusion sur un domaine en particulier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la somme de toutes les études. Tu sais, il va toujours avoir une étude pour confirmer ce que tu penses sur un sujet X, là. Fait que si, là, il y a une étude qui sort puis qui dit, bon, ben justement, les oméga-3, pour parler de ton sujet de maîtrise, donc les oméga-3 font une différence majeure et favorable sur le diabète de type 2, ben il y en a peut-être 8 à côté qui disent la différence. Fait que, tu sais, en tant que lecteur, on doit prendre l'information, dire « OK, peut-être qu'il y a des informations qui nous amènent à penser que ça pourrait être intéressant, mais justement, garder toujours un bémol qu'il n'y a rien de très déterminant avec une seule étude. »
Oui, puis ça, c'est super important ce que tu mentionnes, puis je rajouterais même aussi à ça que comme individu, ne pas changer nos habitudes alimentaires c'est basées ça. Sur un article de journal. Mm-hmm. Je veux dire, si on veut faire des changements importants, commencer à prendre un supplément, essayer un nouveau régime alimentaire, c'est super important de le faire en étant accompagné par un professionnel de la santé, puis c'est pas justement un article de journal qui devrait venir induire un changement. Puis ça, effectivement, c'est aussi très important ce que tu mentionnes, qu'on change pas une recommandation basée sur une seule étude. Tu sais, souvent, j'aime prendre l'image que la recherche, c'est comme si on a une structure dans l'ombre dont on veut essayer de comprendre la forme. Puis chaque étude, c'est comme une petite lampe de poche qui va venir apporter un peu d'éclairage sur ça. Mais pour avoir un portrait complet, bien, il faut plein de lampes de poche qui vont pointer dessus pour voir le portrait complet. Fait que ça, c'est, je te dirais que comme lecteur, des fois, si on voit un article en étudiant qui a l'air intéressant, moi, je le prendrais plus avec curiosité de comme « OK, cool, il y a de la recherche qui se fait dans ce domaine-là. Ah, OK, c'est intéressant. » Mais sans que ça vienne influencer nos habitudes au quotidien. Ça, je pense que c'est peut-être la manière safe de s'en sortir.
Mm-hmm. Puis quand tu parles des petites lumières, là, plusieurs lumières ensemble, là, on dirait que ça me fait penser aux méta-analyses, là, en fait.
Oui,
là. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Là.
Oui, bien, tu sais, les méta-analyses, justement, c'est un type d'étude qui vient, en fait, mettre plusieurs études ensemble. Puis c'est une analyse statistique qui va faire en sorte qu'on va venir combiner plusieurs études qui ont des populations similaires ou qui regardent une variable similaire pour être capable d'avoir une puissance statistique plus forte afin de voir justement un effet plus global. Par contre, les méta-analyses ont leur faiblesse aussi. Puis en science non plus, ou même en nutrition, on ne change pas nos recommandations basées sur une seule méta-analyse. Il faut plusieurs méta-analyses sur un sujet pour venir changer quelque chose. Puis, point intéressant, quand tu mentionnes la méta-analyse, c'est les différentes lampes de poche. Pour moi, je vois aussi les différents types d'études. T'sais, on a autant besoin, l'étude dans un pétri dont on parlait pour la caféine, ça peut sembler inutile, mais c'est quand même une partie de la question du pourquoi tantôt de pourquoi est-ce que le café, ça fait quelque chose? Bien, une étude dans un pétri sur des cellules, ça nous permet d'avoir ces réponses-là. Mais là, après, il faut une autre lampe de poche pour venir regarder est-ce qu'on voit ça chez la souris? OK. Une autre lampe de poche, est-ce qu'on voit ça chez l'humain? Chez quelle population? Fait que, tu sais, il y a autant, tu sais, les différents devis d'études qui vont être importants pour avoir un portrait global.
Mm-hmm. Puis le fait que ça se contredise parfois, là, où c'est plus des ondes grises, puis tout ça, est-ce que tu dirais que c'est en lien avec les différentes études, vu que c'est jamais la même chose qu'on fait, puis des fois, ça peut donner des résultats différents dépendamment du contexte, ou comment tu l'expliquerais, mettons, les ondes grises, en fait?
C'est une très bonne question. C'est sûr que la méthodologie qui est utilisée va être importante à considérer pour voir s'il y a vraiment une contradiction entre deux études. T'sais, par exemple, si on revient à l'exemple de la caféine, puis là, c'était des cellules du foie, puis là, bon, dans le café, on a isolé la caféine, qui était l'élément actif qu'on regardait. On a mis ça sur des cellules du foie, puis on a observé quelque chose. Je pourrais faire quelque chose de similaire en isolant un autre composé du café, disons un polyphénol, puis de venir le mettre cette fois, je ne sais pas moi, sur des adipocytes, les cellules du tissu adipeux, puis voir quelque chose de différent. Ce qui est normal, on a utilisé deux choses différentes, mais dans la manière que c'est rapporté, ça pourrait être que, ah ben là, le café combat le mauvais cholestérol, puis un autre titre serait, ah non, le café ne combat pas le mauvais cholestérol, mais c'est parce que si tu reviens à comment ça a été fait, c'est là qu'on va voir des contradictions. Puis en recherche, tu sais, c'est normal que quand les choses soient répliquées, qu'on voit des choses qui sont différente. Puis ça, c'est une information que ça vient nous apporter. Bien, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est différent? Fait que, tu sais, première réponse à ça, je te dirais que c'est de revenir à la méthodologie, comment ça a été fait, parce que des fois, on peut avoir l'impression que les choses se contredisent, mais tu sais, dans ce cas-là, si je reviens à cet exemple-là, est-ce que c'est vraiment une contradiction ou c'est juste qu'on a regardé, tu sais, on compare des pommes et des oranges? Puis sinon, tu sais, pour les plus grandes études, je te dirais qu'il y a deux grands enjeux dans les études en nutrition qui peuvent mener à ces contradictions-là. La première, c'est qu'on a excessivement beaucoup de difficultés à quantifier ce que les gens mangent. Donc, tu sais, il existe différents outils, des outils qui sont malheureusement imparfaits. Honnêtement, si quelqu'un trouve une manière, un biomarqueur universel pour quantifier ce que les gens mangent de manière exacte, c'est un prix Nobel. Je ne sais pas si on va voir ça un jour, mais bref, ça, c'est une chose aussi que
ça des fois... Ça va peut-être aller ouais, au-delà de l'éthique, là, de filmer la personne 24 heures sur une table.
Oui, absolument. Puis, tu sais, justement, si on a de la misère à quantifier ce que les gens mangent, bien, ça se peut qu'on arrive à des différences qui ont l'air de se contredire, mais ultimement, c'est que la manière qu'on l'a mesuré a une immense variabilité. Puis ensuite, l'autre truc en nutrition, c'est qu'on a beaucoup tendance aussi à venir étudier l'effet d'un nutriment isolé. Donc, tu sais, Vanessa tantôt mentionnait les oméga-3. On voit, tu sais, l'effet est plus controversé au niveau des suppléments d'oméga-3, mais au niveau de la consommation de poissons, qui est un aliment qui contient naturellement beaucoup d'oméga-3, bien, tu sais, ça, de façon plus consistante, on voit des résultats qui semblent être positifs. Et le danger de faire ça, bien, c'est normal à un moment donné qu'on vienne s'intéresser à l'effet d'un seul nutriment parce qu'on veut comprendre exactement qu'est-ce que cette molécule-là a fait. Mais au quotidien, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments qui vont contenir une panoplie de nutriments ensemble. Il y a tout l'effet de la matrice alimentaire. Il y a probablement d'autres molécules, d'autres nutriments qu'on n'a même pas découverts encore qui vont contribuer à ça. Donc, c'est sûr aussi que cet effet-là qu'on vient focusser sur un nutriment par rapport à un aliment, bien, ça peut contribuer justement à ce qu'on ait l'impression qu'il y ait de la contradiction entre les deux. Fait que, grosso modo, je te dirais que c'est probablement, tu sais, certains des éléments de réponse qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'on observe des contradictions ou des choses qui vont dans des directions différentes en sciences de la nutrition.
Puis là, on parle justement de la complexité de l'aliment, qui est beaucoup plus qu'une molécule, mais il y a aussi la complexité de l'humain.
Absolument.
Et tant que tu mets ça justement sur une cellule du foie, mettons, en laboratoire, c'est une chose, mais quand tu rentres dans un humain qui a des hormones, qui a une génétique et qui a des habitudes de vie ailleurs, tu sais, c'est du bagage, ça, là.
Qui est dans un environnement qui est différent de deux personnes, alors que là, c'est le même petit pétri pour les petites cellules, tu sais, c'est ça, ouais. Exactement, c'est un point important que tu apportes, qu'on a toute la complexité de l'être humain qui rentre là-dedans aussi.
Oui, mais Sab, tu m'as inspirée, là. Je pense qu'on devrait se partir une occupation de nutrition. Mais 24/24 des candidats, regarder leur alimentation puis les juger à côté. Ça
serait drôle. Oui, on se parlera en même temps en live, on les voit.
Oui, ça serait bon. Okay, on retravaillera cette idée-là.
Vous m'en donnerez des nouvelles.
Ben non, t'es impliquée. Tu vas être commentatrice. OK, fait que maintenant, dans le fond, j'aimerais qu'on rentre justement sur le fameux esprit critique et comment qu'on fait comme consommateur. Tu sais, là, nous, on est trois personnes qui travaillons en nutrition, full impliquée. On a quand même des connaissances de base qui nous permettent justement de se protéger un peu par rapport aux informations qu'on reçoit. Puis même nous, des fois, justement, on trouve que c'est un défi. Fait que quelqu'un qui n'est pas du domaine, comment il fait justement pour se faire une tête par rapport à l'information qu'il reçoit, savoir justement, bon, si c'est crédible, si c'est pas crédible, pourquoi je croirais cette personne-là versus un autre? Puis je vais poursuivre un peu ma question. Peut-être que là, tu vas dire que ça fait beaucoup pour une question, mais bref, on y reviendra. Justement, quand j'ai écouté ton podcast avec Anthony Bertrand Grenier, vous avez apporté deux choses que j'ai trouvées fort intéressantes, qui est justement l'utilisation des sophismes et des biais cognitifs. Donc, je pense que ça fait partie un peu de la réponse, mais peut-être que tu peux nous jaser là, de ce gros, de cette grosse thématique-là qui est l'esprit critique et comment on peut faire pour le développer et ainsi se protéger un peu contre la désinformation.
Oui, absolument. Là. Donc, ben, tu sais, comme consommateur, si on cherche de l'information en santé, disons qu'on prend l'information en ligne, vu que je crois, j'ai pas de données précises là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas mal plus ça où est-ce qu'on cherche notre information. Maintenant, j'entends moins des gens qui sont comme, hey, j'étais à la bibliothèque et j'ai fouillé le rayon. Tu sais, bref, on est en 2022, là, je pense que l'Internet, c'est pas mal une source d'information.
Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir de stats pour appuyer ce que tu prétends.
Ouais.
On va croire.
C'est bon. Puis, d'abord, tu sais, on va revenir un peu au concept de base de quelle est la source, qui est la personne qui écrit l'information. Est-ce qu'il y a un auteur? Tu sais, ça arrive des fois qu'on voit un article en ligne, un texte, puis on ne sait pas c'est qui l'a écrit, mais tu sais, déjà là, c'est, on a comme une limite importante pour évaluer la crédibilité de l'information. Donc, d'abord, qui l'a écrit? Si je cherche une information en physiothérapie puis c'est écrit par une nutritionniste, tu me permettras d'émettre un doute que la personne qui l'écrit n'a probablement, ben, on n'a pas la formation, en fait, pour commenter des choses dans le domaine de la physiothérapie. Et donc, pour la nutrition, c'est un peu la même chose. Est-ce que ça a été écrit par une nutritionniste diététiste? Oui, on n'est pas infaillible. La science est compliquée et c'est complexe pour nous aussi. Ça, c'est très possible qu'on fasse des erreurs, mais reste qu'on est les professionnels qui ont la formation la plus rigoureuse et la plus complète pour être capable d'interpréter de l'information en nutrition et la partager. Donc ça, c'est une première chose à regarder. Évidemment, un autre truc aussi, la date. Est-ce que c'est un texte qui date de 2005 ou c'est un texte qui est récent? Parce que la science évolue dans le temps. Puis entre 2005 et 2022, bien, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Donc, c'est bon, la source qui l'a écrit, la date. Et aussi, si on s'y connaît, bien, c'est sûr que là, ça dépend à quel point on s'y connaît dans un domaine, mais est-ce que l'information sort complètement de ce qu'on connaît sur un sujet? Tu sais, les fameux articles de « tout ce que vous pensez savoir sur X est faux », tu sais, ça, le titre aussi, des fois, c'est comme tu sais, toi, tu vas venir remettre en doute, tu sais, tout un consensus scientifique, tu sais,
on peut... C'est full marketing, ça, là.
Ah, oui, oui, bien, c'est sûr.
C'est sûr que c'est écrit ça, là. Fait que l'idée, c'est que tu mets un titre de même, ton article n'a vraiment pas rapport.
Ben, ça, tu vois, ouais, ben, écoute, ça peut vraiment être une bonne stratégie.
Mais les gens vont peut-être même pas la lire, l'article.
Oui, ben, ça, c'est un autre truc aussi que, tu sais, si on veut s'informer sur quelque chose, tu sais, puis commencer à lire, faut justement être prêt à mettre un peu peut-être les heures et le temps pour lire sur un sujet et tout ça. Mm-hmm. Puis, encore une fois, ça, c'est ça, on va s'informer en ligne. Si on a le luxe de pouvoir aller voir une nutritionniste ou, tu sais, consulter quelqu'un qui va pouvoir nous faire des recommandations basées sur notre état à nous, sur notre réalité, bien, c'est comme le gold standard, si on veut, la meilleure étape qu'on pourrait faire. Ensuite, justement, pour revenir à ce que je disais, tu sais, est-ce que l'information rapportée va complètement à l'inverse, tu sais, de ce qu'on connaît sur un sujet? Tu sais, quelqu'un qui dit tout ce que vous pensez savoir sur les fruits et légumes est faux, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a un consensus scientifique assez fort en nutrition, que les fruits et les légumes, c'est très bénéfique pour la santé physique, mentale et tout ça. Alors que si on voit ça, bien, c'est comme, hey, comme, si ça, c'est peut-être un drapeau rouge que l'information n'est pas adéquate. Ensuite, dans l'article, est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'on cite un autre blog qui n'a pas nécessairement de validité scientifique ou on fait référence à des articles scientifiques? Ça, déjà, ça peut être un indicateur de la rigueur. Mais encore, c'est tout à fait possible d'écrire un texte qui est basé sur des données scientifiques, mais que le texte est complètement faux parce que les études ont mal été rapportées, mal été interprétées ou qu'il y a eu du cherry-picking dans la manière dont ça a été rédigé. Fait qu'encore là, tu sais, ça ajoute un niveau de complexité à ça, mais tu sais, je pense qu'avec ces quelques étapes-là, on peut quand même peut-être s'enligner vers quelque chose qui a plus d'allure. Puis là, je vois que tu veux réagir, fait que je vais te laisser y aller.
Ouais, ben, je voulais réagir justement sur deux choses. La première, c'est que justement, tu sais, quand tu disais observer qui a rédigé l'article, mettons, en nutrition, c'est pertinent, c'est une nutritionniste. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on voit beaucoup, en fait, puis tantôt, je disais qu'on blâmait beaucoup, mettons, les médecins puis tout, mais les médecins sont des spécialistes de la médecine. Et encore là, la médecine est un domaine tellement, tellement, tellement vaste, avec plusieurs spécialités. Donc, les médecins, avec toute la bonne volonté du monde, ne peuvent pas tout savoir. Fait que, tu sais, nous, on étudie la nutrition, tu sais, à temps plein depuis des années, et il y a bien des choses en nutrition qu'on ne sait pas encore. Un médecin, il y a bien des choses à savoir, et il n'est pas un expert de la nutrition, ça lui enlève rien. C'est pas pour dire qu'il n'est pas crédible, c'est juste que des fois, on accorde tellement de crédibilité au médecin, puis de dire « oui, mais c'est un médecin qui l'a dit, ok, cool ». Mais encore, tu peux quand même aller pousser ton raisonnement un petit peu plus loin, je pense, même si c'est un médecin. Puis c'est rien contre la profession, là. Au contraire, je trouve que, pauvres eux, genre, ils doivent s'en mettre beaucoup sur les épaules. La charge doit être énorme parce que juste d'avoir les compétences et connaissances en nutrition, c'est déjà un très gros dossier. Fait que ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais réagir. Ouais.
C'est tellement important comme point que tu apportes. Puis tu sais, justement, est-ce que le texte est écrit par le professionnel du domaine? Puis tu sais, les médecins, c'est un très bon exemple. Puis il y a quelques semaines, il y a un médecin qui m'a contacté parce que dans son GMF, il voulait développer des espèces d'infographies sur certaines diètes populaires en nutrition. Puis il m'a écrit pour qu'on puisse se rencontrer puis que je lui donne mon opinion sur ce qu'il avait développé. Puis, tu sais, il me l'a dit très sincèrement, hey, écoute, dans toute ma formation en médecine, j'ai peut-être eu moins de 10 heures de formation en nutrition, mais écoute, je lui fais entièrement confiance pour tout ce qui est la connaissance du corps humain, le fonctionnement des médicaments, les diagnostics et tout ça. Ils ont leur expertise. Puis, un autre truc important que tu as mentionné, que ça me fait penser à ça, que des fois, quelqu'un va nous apporter une information et le jeûne intermittent peut renverser le diabète de type 2. Non, mais il y a un médecin qui a écrit ça. Ça, c'est un sophisme qui s'appelle l'appel à l'autorité. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas uniquement se... Oui, c'est sûr que si c'est un professionnel de la santé, c'est déjà mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout de formation en santé. Par contre, ça seul comme argument n'est pas suffisant justement parce que, c'est ça. T'as beau être un professionnel de la santé, on est professionnel dans un domaine en particulier et ça ne nous rend pas experts dans tout ça. Puis, dernière chose que je voulais mentionner par rapport à, quand on voit de l'information en ligne, puis ça peut être difficile à faire, mais c'est de reconnaître nos propres limites comme lecteur, par rapport à nos connaissances sur un sujet. T'sais, si, mettons, tu donnais l'exemple de la mécanique tantôt, je me lance à lire et tout ça, des textes et tout ça, qui sont écrits par des mécaniciens et tout ça, bien, à un moment donné, malgré toutes ces démarches-là que je peux mettre en place pour avoir l'information aussi juste que possible. Moi, j'ai une limite dans le sens que, tu sais, je dépends un peu de ces experts-là. Ça se peut que ce soit pas le cas, mais je dois reconnaître que j'ai pas la formation pour être capable de distinguer parfaitement qu'est-ce qui peut être vrai de qu'est-ce qui est faux. Fait que ça, c'est quand on parlait d'esprit critique, à un moment donné, c'était capable de se regarder et faire comme, hey, comme, oui, ça fait des heures que je lis là-dessus, mais ça peut être un biais qui s'appelle l'illusion de la connaissance. Plus tu passes du temps à lire sur un sujet, plus tu as l'impression que tu es expert, mais tu ne l'es pas nécessairement. Puis ça, je pense que c'est important de faire preuve d'humilité à un moment donné puis de reconnaître qu'on a des limites par rapport à ça.
Mm-hmm. Ouais. Puis l'autre chose aussi que je veux amener, puis je sais que tu en avais parlé aussi dans ce podcast-là, mais c'est justement, tu sais, moi, je dis toujours que peu importe, mettons, là, on parlait beaucoup de sur le web, tu sais, d'aller chercher des connaissances sur le web, mais mettons, tu rentres dans une librairie, dans une bibliothèque, tu sais, il y a des livres sur mille et un sujets, puis souvent, mettons, tu vas prendre un livre, exemple, sur une diète vegan, bien là, à la fin du livre, premièrement, ça va souvent être appuyé par des experts, fait qu'il va souvent avoir un médecin qui va s'être prononcé sur le sujet. Puis quand tu vas à la fin du livre, souvent, il va avoir des références, tu sais, une couple de pages de références, c'est que là, la personne va dire « Non, le livre est fiable. » Puis d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un par rapport à ça, sur les médias sociaux qui m'avait fâchée parce que j'avais fait une publication sur le gluten. Là, lui, il m'avait sorti un livre, genre, justement, qui disait à quel point le gluten, c'était mauvais. Puis là,
je sais exactement de quel livre tu parles.
il prenait des photos, des références à la fin, puis il était « Regarde, il y a des études. » J'étais comme « OK, mais il va toujours avoir un livre. » Puis tu sais, tu vas prendre, mettons, tu pourrais, par exemple, le gluten étant un bon sujet, tu pourrais avoir un livre sur le gluten qui dit que le gluten n'est pas mauvais sur la santé, avoir 15 pages de référence, puis tu pourras avoir un livre sur le gluten, dire qu'il est mauvais sur la santé, puis avoir 15 pages de référence. Fait que ça vient mélangeant aussi. Puis tu sais, justement, je parlais des diètes. Bien, la diète végane, c'est la meilleure, ça va te sauver la vie, 15 pages de référence. Après ça, diète carnivore va changer ta vie, c'est la chose à adopter, 15 pages de référence. Fait que ça vient mêlant, justement, ça aussi.
Ouais. Puis tu sais, comme on a dit tantôt, je veux dire, oui, se baser sur des études scientifiques, c'est déjà excellent. Par contre, toutes les études ne sont pas équivalentes. Puis, tu peux bien avoir 50 pages de référence d'études qui ont été faites sur des cellules. Je te garantis que tu vas en trouver, mais encore là, est-ce que ça s'applique à l'humain? Hein? Puis, tu sais, dans le processus de publication, tu sais, d'un livre de référence ou, tu sais, peut-être pas un roman, là, mais tu sais, disons un livre qui porte sur le gluten, justement, tu sais, je doute sincèrement que dans les maisons d'édition, tu as un processus de révision par les pairs où tu as un groupe de scientifiques qui va s'asseoir, qui va venir regarder ce que tu as écrit, qui va venir regarder tes références, alors que quand on publie des articles scientifiques, on passe par là. Puis si le comité de révision qui regarde ça fait comme « Hey, c'est parce que les références que tu as publiées n'ont pas rapport », bien, ton article sera probablement pas publié. Donc ça, c'est important aussi de garder en tête qu'un ouvrage de référence dans le domaine de la santé, même s'il contient un paquet de références à la fin, on peut quand même tomber dans un livre qui est rempli de mésinformations.
Malheureusement, parce que ça l'ajoute à la charge, justement, d'essayer de se protéger contre la désinformation.
Ouais. Puis le livre est conçu aussi pour monsieur, madame, tout le monde, essayer de vulgariser tout ça, puis au final, il est possiblement moins fiable que...
Puis souvent, avec un gros biais de la personne qui l'a écrit, croit fortement, puis elle a comme un désir de convaincre. Fait que justement, on parlait tantôt de cherry picking, bien assurément que dans sa recherche de référence, bien il y a probablement eu du cherry picking. Tu sais, souvent quand tu écris un livre sur le sujet, là, c'est parce que tu pars en mission, là, genre, moi je vais sauver le monde et les convaincre que comme j'ai la vérité. Fait que c'est sûr que dans ton argumentaire, bien t'es pas objectif, là.
Oui, non, exactement. Puis, tu sais, pour revenir aussi au biais de l'appel à l'autorité, souvent, les gens qui vont écrire ça, ils ont comme 7 lettres après leur nom, MD, PhD, tu sais, fellowship de je sais pas quoi, tout ça, ce qui donne l'impression que c'est crédible. Il y a des fois, des gens sont comme, non, mais je te dis, ça a été écrit par quelqu'un qui a un doctorat, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est comme, ouais, mais avoir un doctorat, être médecin, même être nutritionniste, ça ne nous immunise pas contre nos propres biais et contre la mésinformation. Fait que ça aussi, bref, je sens qu'on est décourageante depuis tantôt, on montre tout ce qui est compliqué, mais en même temps, il vaut mieux être réaliste puis de s'armer un peu plus pour être capable de reconnaître ce qui peut être vrai de ce qui est faux.
Ouais, puis ben justement, pour y aller peut-être sous un œil un petit peu plus positif puis passer en mode un peu solution, ouais. Tu sais, tantôt, je t'ai tendu la perche par rapport justement au sophisme puis au biais cognitif. Je ne sais pas si tu es à l'aise de nous en parler un petit peu de ça, probablement de nous expliquer c'est quoi, parce que moi, je l'ai appris honnêtement dans ce podcast-là là, dont je parle, puis j'ai trouvé ça super intéressant, fait que ça te tente de nous en parler un peu?
Oui, ben je peux essayer. Tu sais, c'est sûr que là, pour revenir un peu à tout ce qu'on disait, ouais. Ça c'est la philosophie, ce n'est pas mon expertise, ouais, mais ouais. Je peux partager de ce que je comprends sur le sujet, des entrevues que j'ai faites, ouais. de ce que j'ai lu par rapport à ça. Tu sais, grosso modo, là, les biais cognitifs, c'est un peu comme les défauts de notre cerveau dans notre manière de raisonner. Fait que c'est comme les petits raccourcis que notre tête va prendre pour essayer de faire du sens d'une situation qui est complexe. Puis, tu sais, je peux t'en nommer quelques-uns. Par exemple, il y a le biais de confirmation qui est en fait qu'on va avoir plus tendance à aller regarder, consulter ou croire de l'information qui va dans le sens de nos propres croyances. Donc, quelqu'un qui est persuadé que le gluten est mauvais pour la santé va avoir beaucoup plus tendance à aller consulter des liens, des articles et tout ça qui vont dans cette direction-là que d'aller consulter de l'information qui remet en doute sa croyance. Puis, ça, quelque chose de simple qu'on peut faire pour essayer de se protéger du biais, c'est avant d'aller faire une recherche sur un sujet, on peut se questionner a priori, mais qu'est-ce que je pense sur le sujet? T'sais, disons que, on reprend l'exemple du gluten, mais hey, moi, je pense que le gluten, c'est pas bon. T'sais, de ma connaissance actuelle, je pense que c'est ça. Prendre le temps de le réaliser, que c'est la croyance qu'on a priori, puis c'est normal, des croyances, des biais, on en a tous, il y a personne qui en a pas, c'est tout à fait normal. Puis de faire comme, hey, ça se peut que je sois plus influencée par ça, et donc je vais me forcer à aller consulter des références qui pointent dans une autre direction. Puis tu sais, pour reprendre, disons, le régime vegan, un peu la même chose, mettons, moi je suis vegan, et comme, tu sais, même si je suis ouvert à la science, reste que, tu sais, t'as un certain biais, c'est ton alimentation au quotidien, bien un, de le réaliser, puis de te forcer à aller consulter justement d'autres sources d'informations pour vraiment plus être exposé à un portrait global de la situation. Et un gros enjeu avec ça, surtout avec les médias sociaux, les fameux algorithmes vont faire en sorte que notre biais de confirmation peut juste s'amplifier parce que les médias, l'algorithme comprend que, hey, je vais plus liker des gens justement qui sont tous véganes, des professionnels de la santé qui parlent juste de ça. Et donc, on va se retrouver dans des chambres d'écho qui donnent l'impression que, hey, ben, j'ai vraiment un portrait global, c'est tout ce que je vois. Mais en fait, ben, tu sais, c'est l'algorithme qui fait en sorte qu'on est plus exposé à ça. Donc, encore une fois aussi, d'en être conscient que ce qu'on regarde, c'est ce que l'algorithme nous montre et ce n'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Fait que déjà, je pense simplement cette prise de conscience-là, elle est importante.
Ouais, j'ai quelque chose à dire.
Oui, ben vas-y.
Par rapport à ça, tu sais, puis je suis sûre que vous le vivez, vous êtes aussi les filles. Tu sais, mettons, par rapport au sujet de tout ce qui est la grossophobie, puis le body positive, tu sais, moi, justement, sur mes médias sociaux, je suis 100% là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a évolué comme société, que genre, le message passe, que tout le monde en parle, tu sais. Des fois, j'en parle avec mon chum, il me dit, personne ne sait de quoi tu parles, là. Il y a juste toi qui vois ça, là. Puis je suis comme, mais non, tout le monde voit ça. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde, moi, je parle à d'autres nutritionnistes qui sont comme... Mais tu sais, c'est tellement, dans le fond, mon réseau. Puis c'est vrai que c'est comme si ça nous mettait dans nos petites bulles, tu sais, les réseaux sociaux, de genre, j'ai mes champs d'intérêt, je partage des opinions, puis je vais le suivre du monde qui partage mes opinions, qui sont... Fait que je suis comme, j'ai l'impression qu'on voit juste ça. Puis tu sais, c'est un peu pour, justement, pour ne pas parler de pandémie et de vaccin, mais j'ai l'impression aussi que, mettons, si t'es anti-vax, tu vas suivre du monde anti-vax, là, tu vas dire tout le monde est anti-vax.
Exactement.
Oui, vraiment. Là. Puis j'avais autre chose à ajouter, mais ça me sort de la tête. Fait que je te laisse.
Mais c'est ça, c'est un très, très bon point que tu apportes. T'sais. Puis il y a ben, aussi l'effet de répétition, justement, qui est un peu en lien avec ça, que plus on est exposé à une information et plus on a de chances de la prendre pour vrai. Ce qui fait que l'information soit vraie ou fausse, à force de l'avoir souvent, ben, on va avoir plus tendance à l'encoder comme si c'est une information qui est véridique. Puis pour aller aussi vers les sophismes, les arguments fallacieux. Puis ça, c'est un autre truc aussi, tu sais, pour revenir à quand tu me disais, mettons, quelqu'un qui ne sait pas trop, qui lit un article. C'est d'autres trucs qu'on peut essayer de remarquer pour être capable d'évaluer la crédibilité d'un texte. Puis, des arguments fallacieux, c'est des arguments qui sont utilisés pour, tu sais, tenter de convaincre, de faire un point, mais qui vont utiliser un raisonnement qui est fautif. Par exemple, qu'on voit beaucoup en nutrition, l'appel à la nature. Donc, parce que c'est naturel, c'est automatiquement meilleur pour la santé. Donc, si on voit dans un texte, dans une publication, peu importe, que quelqu'un fait beaucoup référence au fait que c'est naturel, sans produits chimiques, sans ci, sans ça, bien ça, c'est un argument fallacieux qui est utilisé, qui fait en sorte que l'argumentaire, tu sais, c'est juste ça, c'est pas très solide. Puis, tu sais, je veux rappeler que, dans le fond, tu sais, tout autour de nous est chimique d'une certaine façon et tout est naturel, tu sais, tout vient de la nature, mais en même temps, tu sais, l'eau que je vais boire, bien, c'est deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène qui sont des molécules chimiques ultimement.
Moi, je viens de dire que la cocaïne, ça vient d'une plante, mais est-ce que ça veut dire que la cocaïne, c'est bon pour nous? Je ne crois pas.
Exactement, ou tu sais, disons, des traitements de chimiothérapie qui peuvent avoir l'air donc chimiques, entre guillemets, bien, il y en a beaucoup, justement, que l'ingrédient actif, ça vient d'un arbre qui pousse en Amérique du Sud, tu sais, on vient de la nature, entre guillemets. Fait que, l'appel à la nature, c'en est un. Un autre qu'on voit beaucoup, c'est l'appel à la tradition. Donc, parce que mes ancêtres mangeaient comme ça, ben moi aussi, je dois manger comme ça. Ou parce que quelque chose existe depuis longtemps. T'sais, ça, je le vois beaucoup pour le jeûne. Le jeûne existe depuis la nuit des temps et donc, ça doit être bon pour la santé. C'est pas parce que quelque chose existe depuis longtemps que c'est nécessairement bon pour soi. Donc, ça, c'est un autre argument que si on se rend compte que c'est ça qui est utilisé, bien que, tu sais, qu'on est rendu à utiliser des sophismes ou des arguments fallacieux, souvent, ça peut être parce que l'argumentaire scientifique en soi n'est pas solide. Un autre que j'ai mentionné à quelques reprises, l'appel à l'autorité. Si on fait juste citer tel médecin, tel prix Nobel, blablabla, qui dit une telle information, bien ça aussi, oui, OK, la personne a une formation impressionnante, des prix intéressants, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'information qu'elle rapporte est bon. Puis, est-ce que vous connaissez, parce que ça me fait penser, il y en a un, c'est le biais du Nobel qui fait référence à l'appel à l'autorité. Est-ce que vous avez déjà entendu ça?
Ben moi, oui, parce que j'écoutais. Oui.
non, ça me dérange.
Ben c'est un peu, en fait, un genre d'appel à l'autorité, mais quand c'est quelqu'un qui a un prix Nobel qui a rapporté l'information. Puis, est-ce que vous connaissez Linus Pauling? Ben, Vanessa, oui, probablement, parce qu'on en a parlé, mais Linus Pauling, c'est lui, en fait, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la vitamine C, puis de ses travaux autour de ça et tout ça. Fait que, tu sais, wow, médecin, prix Nobel, tout ça. Mais c'est aussi à cause de lui qu'à chaque année, on doit répéter que prendre des suppléments de vitamine C, ça ne prévient pas un paquet de maladies et dont le rhume. Et je lisais un livre par rapport à ça, puis, tu sais, les médecins, disons, qui voyaient des gens qui venaient pour se faire prescrire de la vitamine C à haute dose, arrivaient, puis disaient à leur médecin, ouais, non, mais check, c'est un prix Nobel qui a trouvé ça, qui dit le propos. Et encore une fois, puis effectivement, beaucoup de ces arguments qui ont découlé après, où il a comme pris une pente descendante après son prix Nobel, n'étaient pas basés sur des données probantes. Mais par contre, les gens arrivent en disant, ben check, t'as quelqu'un justement en position d'autorité qui a un prix Nobel, qui est médecin, tout ça. Ça, c'est un autre biais qu'on peut observer. Donc ça, je te dirais que c'est peut-être les trois principaux que je vois beaucoup en ce qui a trait à la science de la nutrition. Il en existe d'autres. Mais ça, c'est trois choses, des biais que si on les remarque dans l'argumentaire, ben ça peut être un signe justement qu'il y a quelque chose qui cloche.
Moi, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention quand je les écoutais. Puis tu vois, là, tu me corrigeras parce que je ne suis pas sûre à 100% que j'ai le bon terme. À mon souvenir, c'était le sophisme ou le biais, là, je me mélange peut-être, mais de l'enfumage. C'était quelqu'un rend le truc tellement, tellement complexe, il sort des mots que tu ne comprends pas, des termes. Fait que là, il a l'air vraiment expert, puis il a l'air de tellement connaître son affaire que tu te dis, ben, il peut juste dire vrai, là, il est tellement connaissant, tu sais. Fait que ça, c'est justement, c'est ça l'enfumage.
Oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, des biais, des sophismes, là, il y en a, tu sais, des dizaines et des dizaines, là, donc on prend parler longtemps, mais ça, c'en est un qui est excellent.
Mais je le voyais vraiment en nutrition. Ouais. Des fois, il y en a des experts qui rendent les choses tellement, tellement compliquées. Puis des fois, c'est plus sexy que de dire, ben ça serait une bonne idée de manger plus de légumes. Puis là, le monde, ils disent, cette personne-là, elle a absolument la vérité. Là, check comment qu'elle est connaisseur. Fait que ça, je le reconnaissais vraiment dans le domaine de la nutrition.
Puis je sais pas si c'est, parce que j'ai le terme anglais pour ça, mais je sais pas si c'est l'équivalent de l'enfumage, mais en anglais, c'est le sea lioning. Puis en fait, c'est justement de venir utiliser, en fait, non, c'est pas vrai, c'est le renversement du fardeau de la preuve qui peut faire un parallèle avec l'enfumage, mais c'est que, mettons, tu sais, je vous parle, puis là, on s'obstine sur, disons, le gluten et tout ça. Bien là, c'est moi qui ai une opinion forte sur le sujet, mais je vais mettre le fardeau sur vous de, bien, OK, bien, prouvez-moi que le gluten est mauvais, tu sais, au lieu de qu'il y ait un échange constructif où deux personnes apportent des arguments scientifiques à la table. Ça peut être une tactique aussi qui est utilisée. Puis ça, je pense aussi, c'est l'appel à l'ignorance de dire que c'est pas parce que si on sait, on n'a pas de preuve que ça marche pas, bien automatiquement, ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais effectivement, l'enfumage, on le voit excessivement beaucoup en nutrition. Puis ça, j'invite les gens aussi à être méfiants que quand quelqu'un va sortir plein de termes super compliqués, c'est parce que si t'es rendu à sortir un paquet de termes compliqués que t'es pas capable de simplifier, bien un, peut-être que tu comprends mal le sujet. Et deuxièmement, bien ça, justement, quand c'est une technique d'enfumage, de juste venir en rajouter tout plein autour. Ça peut être un signe, justement, que l'argument est fautif.
Puis, justement, tu sais, t'as parlé un peu de quand on échange avec quelqu'un, tu sais, dans le renversement du fardeau de la preuve et tout, mais comment qu'on devrait discuter? Comment on peut rendre la conversation constructive quand on échange? Parce que quand on a travaillé sur les médias sociaux, ça arrive souvent, là, tu sais, puis je pense que toi puis moi, on sait que, tu sais, justement, ça vaut pas la peine de s'obstiner avec quelqu'un, mais des fois, ça vient comme nous chercher.
Oui.
Regarde ça avant d'aller te coucher, là, c'est ça, tu t'endors pas.
Tu veux pas non plus débattre avec la personne.
Là, non, tu veux pas débattre. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un à convaincre, genre, mais eux, des fois, quand ils t'attaquent, c'est comme s'il fallait que tu changes d'idée puis que t'avais tort, tu sais. Mais moi, je veux dire, je partage l'information que j'ai validée, que je connais, justement. Puis, si t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord, mais essaie pas de m'attaquer puis d'essayer de me faire changer d'idée ou de me convaincre du contraire, là, bref. Mais comment qu'on peut discuter de manière constructive quand on a des opinions qui sont divergentes?
C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse parfaite, mais tu sais, je peux te proposer mes pistes de réflexion par rapport à ça. Sur les médias sociaux, c'est difficile. T'sais, c'est un peu comme régler une chicane par texto, c'est jamais une bonne idée. Puis c'est drôle quand tu disais que c'est ça, tu sais, ça vient de chercher. Là, mon chum le voit avant de me coucher quand ma face, ça change, puis il est comme, t'as vu quelque chose sur Instagram? Hein?
C'est toujours avant de te coucher, là, t'es comme maudit.
Mais I guess aussi, tu sais, on est peut-être plus fatigué, a moins, tu sais, t'as moins tes mécanismes habituels d'autorégulation passe à la fin de la journée et tout, là, mais bon. Donc, moi, si je te dirais une des premières choses, puis vous l'avez mentionné les deux, que c'est de venir tenter le terrain. Est-ce qu'il y a une ouverture à échanger ou c'est juste deux égos forts qui vont se garrocher des arguments, tu sais, sur un sujet? Fait que d'abord, tu sais, mettons qu'on parle de la diète végane, du jeûne, peu importe, c'est comme, hey, comme je remarque qu'on a des opinions qui sont différentes sur un sujet, tu sais, est-ce que tu es ouvert à ce que je te partage, moi, ce que je connais? Puis déjà, là, tu sais, on vient créer, je pense, un climat qui est plus propice à des échanges que si je viens juste essayer de garrocher des arguments qui ont comme, tu sais, où la personne n'a pas d'ouverture. Puis ça, des fois, c'est difficile, mais il faut accepter que quelqu'un a juste pas l'ouverture pour débattre sur un sujet. Mm-hmm. Puis est-ce que, quand je parlais tantôt, on parlait d'enfumage et tout, du renversement du fardeau de la preuve, t'sais, est-ce que la personne, elle a un intérêt? Est-ce qu'elle est prête à s'ouvrir l'esprit un petit peu plus pour en apprendre plus? Mm-hmm. Ou son intention, c'est vraiment juste de venir écraser l'autre puis d'avoir raison? Puis ça, c'est important aussi d'apprendre à mettre nos égos de côté, d'être capable d'accepter que hey, ça se peut que je me sois trompée, ça se peut que je ne sache pas tout sur un sujet. Puis aussi, je crois, de reconnaître mutuellement les limites qu'on peut avoir sur un sujet. Je n'irai pas m'obstiner avec un de mes amis physiothérapeutes sur les exercices qui prescrits, même si je crois fortement qu'il y a un exercice qui est bon, c'est pas mon expertise. Mm-hmm. Ensuite, dans le podcast avec Anthony, puis ça, c'est un truc justement sur lequel j'avais moi-même envie de lire un peu plus. Puis c'est le principe de la conversation épistémique, en fait, qui justement, c'est une manière d'échanger qui vise à venir un peu plus, tu sais, mettre au défi certaines fausses croyances et avoir un dialogue qui est plus constructif. Puis, une chose que je trouve intéressante à faire, puis surtout comme professionnel de la santé des fois, puis tu sais, peut-être les filles, vous qui... Eh bien, Vanessa, je sais que tu fais plus de consultations. Sabrina, est-ce que tu en fais encore? Ah, oh, t'en fais encore? OK, c'est bon, je pensais que t'avais arrêté. Mais tu sais, des fois, quand quelqu'un arrive, puis il fait comme, « Hey, j'ai vu tel produit à la pharmacie qui pourrait booster mon système immunitaire. » Notre réflexe, nous, ça peut être de faire « Ah non, tu sais, comme ça fonctionne pas. » Puis on fait juste... tu sais, on vient juste automatiquement un peu, tu sais, balayer du revers de la main. Puis, tu sais, comme tu viens de dire « Non, ça marche pas. » Mais souvent, ce qui va plus fonctionner, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi et d'approcher la question avec curiosité. Donc, parce que des fois, les gens vont arriver, c'est pas une question, c'est comme « Hey, moi, je jeûne et ça fonctionne. » Puis comme, tu sais, là, tu peux être comme « Ah, il y a peut-être pas d'ouverture. » Mais ce qu'on peut faire, c'est d'être curieux, de poser des questions. Puis ça, c'est une façon de venir créer un environnement qui est plus propice aux échanges. Donc, « Ah, OK, tu as lu que ce produit-là venait augmenter le système immunitaire. Où est-ce que tu as vu que c'était écrit ça? De quelle façon est-ce que ça fonctionne? Veux-tu m'expliquer ce que tu as compris sur le sujet? » Puis ça peut amener la personne à réaliser par elle-même, « Hey, comme j'ai juste vu ça sur la bouteille, mais je ne sais pas sur quoi ça s'appuie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. » Puis, tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple du système immunitaire puis qu'on décide de plonger un peu plus. « Ah, est-ce que ça fonctionne en venant augmenter le nombre de globules blancs? Ou est-ce que ça vient... diminuer la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, comment ça fonctionne, tu sais, de venir plonger plus loin, puis pas de manière...
Ça vient mettre le doute un peu de la personne.
Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas de le faire de manière arrogante, de comme, « Hey, check, moi, je te pose des questions, j'en sais plus. » Mais non, tu sais, juste venir amener la personne à réfléchir un peu plus loin. Puis ça, ce raisonnement-là, surtout pour des trucs en nutrition, tu sais, quand, je sais pas, tu sais, on entend que tu sais, tel produit de santé naturelle vient augmenter le métabolisme. Je vois beaucoup ça sur TikTok ces temps-ci, puis je fais comme, voyons. Tu sais, c'est de venir amener la personne à elle-même être capable de regarder une affirmation puis de faire, OK, je reçois cette affirmation-là, mais comment ça se fait? Comment ça fonctionne? Puis souvent, quand on pousse, c'est là qu'on bloque, on est comme, hey, il y a vraiment pas d'assise à une telle affirmation. Donc, je te dirais que, bien, je vous dirais en fait que d'être davantage dans la curiosité, le fait de poser des questions, tant pour avoir un dialogue qui est respectueux sur, disons que c'est deux sujets sur lesquels deux personnes ont des opinions fortes, mais également quand on est devant quelqu'un, puis tu sais, en nutrition, on a notre expertise, puis on peut savoir directement quand quelqu'un nous apporte quelque chose, disons, un produit santé naturelle qui prétend booster le système immunitaire, qui n'est pas un concept qui est valide avec ce genre de produit-là. On peut savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on est capable d'avoir une discussion qui est respectueuse et qui va aider la personne à développer elle-même des outils pour développer son esprit critique et ne pas tomber dans le panneau de certaines techniques de marketing ou certains arguments fallacieux dont on a parlé plus tôt. Fait que ça, je pense que c'est une manière qui peut aider. Puis aussi, je crois, savoir se retirer quand on sent que ça dérape. Ça, Vanessa, tu l'as bien mentionné, surtout sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Quand les gens arrivent justement à venir attaquer la personne, quand on est rendu à des attaques à l'intégrité et tout ça, parce que si t'es rendu à attaquer la personne, je veux dire, ultimement, tu sais, c'est-tu Vanessa que je veux que je veux détruire ou c'est son argument, tu sais. Fait que quand on est rendu là, souvent, c'est un signe qu'on est trop dans les émotions puis qu'on sera peut-être pas capable de discuter adéquatement. Puis, il y a une phrase aussi, puis après, je vais vous laisser ranger. Mon Dieu, le sujet me passionne, fait que je pars un peu en fou, là, mais une phrase aussi que j'ai déjà lue par le scientifique Carl Sagan, que j'adore, que je vais traduire en français, c'est « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. » Puis ça, je trouve que c'est important de se le rappeler, justement, que plus on va voir une allégation qui semble sortir de l'ordinaire, qui est vraiment incroyable, bien, pour être supporté, elle va avoir besoin de preuves extraordinaires. Puis ça, comment est-ce qu'on peut le raisonner? Bien, c'est en posant des questions, en étant curieux et tout ça.
Moi, je voulais réagir justement sur le fait, puis t'en es venu naturellement, puis je voulais te relancer aussi par rapport à ça, mais le fait qu'il y a une grosse distinction entre, tu sais, justement, avoir une opinion différente de quelqu'un sur les médias sociaux et en consultation, parce qu'en consultation, tu sais, on est souvent confronté, ben pas confronté, mais tu sais, des fois, les clients vont nous arriver, ils ont des croyances, justement, par rapport, mettons, au gluten, aux produits laitiers, tu sais, c'est pas rare, ils ont fait des choix, puis tu sais, c'est quand même... Ben, premièrement, c'est un peu notre devoir en tant que professionnel d'aller rétablir les faits, mais on ne veut pas non plus les confronter dans leurs croyances parce que quand on a des croyances, souvent, ça fait un peu partie de notre identité aussi, de nos valeurs. Puis c'est comme insultant de se dire qu'on a tort quand on fait des actions en ce sens depuis longtemps. Fait que une chose qui est importante aussi, c'est premièrement de créer ce lien de confiance-là. Fait que peut-être Absolument. Pas nécessairement adresser la problématique dès les premières minutes, dès les premiers rendez-vous. Puis aussi de questionner la personne sur, tu sais, ben ça t'amène quoi à oui. toi d'avoir pris cette décision-là, mettons que tu as retiré ça, est-ce que tu te sens réellement mieux? OK, ben si tu te sens réellement mieux, justement, ben tant mieux, tu sais, c'est peut-être intéressant pour toi. Puis si jamais tu as envie de tester, ça ferait quoi, mettons, de le réintroduire? Ben tu sais, je vais être là pour t'accompagner, puis on pourra faire des tests de telle manière, puis justement, tu sais, des fois, on peut leur amener justement des suggestions par rapport au gluten, notamment, tu sais, des fois, je dis, observe, des fois, la liste d'ingrédients, mettons, d'un produit qui n'a pas de gluten versus un produit qui a du gluten. Fait que, tu sais, justement, tu y amènes de l'information comme ça, sans dire que la personne a tort, mais juste justement des pistes de réflexion là, par rapport à un sujet X.
Oui. Non, ouais. tout à fait. Puis ça, à un moment donné, ultimement, notre job, c'est pas de convaincre. Puis non, si on est trop là-dessus, bien là, nous-mêmes, on peut tomber à utiliser des arguments fallacieux, tomber dans, justement, les sophismes et tout ça. Donc, on n'est pas à l'abri de ce piège-là non plus. Fait que je pense que c'est ça. Montrer de l'ouverture, de la curiosité, okay. Je pense que c'est deux choses essentielles pour avoir, tu sais, des discussions... qui sont constructives quant à ça. Puis dernier petit point, c'est que, tu sais, tantôt, je pense que j'ai interchangé beaucoup. Si je disais deux personnes qui ont deux opinions différentes sur un sujet, tu sais, je pense que c'est important de distinguer aussi qu'une opinion n'est pas un fait. Tu sais, c'est correct d'avoir des opinions différentes, mais ultimement, tu sais, en santé, on prend des décisions basées sur les faits et non sur des opinions.
Oui, totalement. Très intéressant. Fait que là, j'aimerais qu'on passe à la partie 2 du podcast. Ça fait déjà une heure, fait qu'on va y aller assez rondement. Mais dans le fond, j'avais séparé le podcast en deux parties parce que il y avait comme deux côtés de la science que j'avais envie d'explorer. Puis j'avais l'impression que comme la première partie s'adressait plus au grand public, puis là qu'on va rentrer peut-être dans une partie un peu plus théorique qui s'adresse peut-être plus aux professionnels ou aux personnes qui ont envie de pousser ça un petit peu plus loin. Fait que j'avais envie qu'on parle justement, puis c'est peut-être là que tu as vraiment de l'expertise parce que tu as de l'expertise sur le terrain. Fait que justement, de comment qu'on fait pour comprendre la science, tu sais, j'avais envie qu'on parle des différents types d'études et tout. Fait que peut-être qu'on pourrait justement commencer par ça. Mm-hmm. C'est quoi les différents types d'études, la science versus la recherche, tu sais, vraiment d'aller un peu définir tout cet univers-là.
Oui, absolument. Puis, peut-être la première chose que je pourrais te définir très sommairement, c'est tout simplement le processus de la démarche scientifique. Tu sais, dire démarche scientifique comme ça, c'est drôle parce qu'on reboucle un peu à ce que tu disais au début, que tu sais, ça peut paraître gris, ça peut paraître froid et tout ça, mais tu sais, essentiellement, la science, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est une méthode systématique pour essayer d'obtenir des réponses à certaines questions. Fait que, tu sais, c'est ça. La science, tu sais, des fois, les gens vont dire, ah ben, je crois pas à la science, c'est que la science, c'est pas une croyance, c'est une méthode. Puis essentiellement, première étape, tu observes un phénomène dans la nature. Disons que j'observe que les gens habitent dans des régions plus ensoleillées ont des niveaux de vitamine D plus élevés. Ah, OK, pourquoi? Donc, la question que je pose, est-ce que le soleil influence nos niveaux de vitamine D? OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à la question? Je vais mettre une méthode en place pour essayer de répondre à cette question-là. Donc, je vais prendre un groupe qui habite dans des régions ensoleillées, un groupe qui habite, je ne sais pas moi, au Yukon, où est-ce qu'il fait plus noir l'hiver. Je fais deux groupes, je vais mesurer leur niveau de vitamine D. Ah, il y a peut-être des facteurs confondants qui peuvent induire ça. Je vais essayer de venir corriger ça à l'aide de méthodes statistiques différentes. Je regarde les résultats. Je vais les discuter. Je vais essayer de, OK, c'est quoi les limites, les forces de ma méthode? Il y a peut-être tel biais dont j'ai peut-être pas tenu compte. Puis, ultimement, ben voici grosso modo ce que j'en ressors. Fait que, tu sais, ça, j'ai donné un exemple, tu sais, très hypothétique, là. Mais, tu sais, c'est une méthode. On observe un phénomène et on tente de venir répondre à une question. Et avant d'embarquer dans, justement, les différentes études, puis tu sais, ça va peut-être faire le pont avec ce qu'on discutait avant. Des fois, les gens vont nous arriver avec des témoignages de « Hey, tu sais, je connais tant de personnes qui ont coupé le gluten, qui ont essayé la diète cétogène et qui se sentent mieux, qui ont perdu du poids et tout ça. » Puis, les témoignages ont leur valeur. Tu sais, ça va être la base, justement, pour venir générer des questions, des hypothèses de recherche parce qu'on observe un phénomène. Par contre, un témoignage n'est pas une preuve scientifique en soi. Ça, c'est très important de le distinguer, que ça a une valeur. Puis souvent, c'est attrayant parce que c'est émotif. Tu sais, on peut plus s'identifier, se connecter aux gens face à ça. Mais ultimement, ça, c'est pas une preuve. Tu sais, on est comme à la première étape de la démarche scientifique qui est on observe un phénomène. Fait que là, je me souviens plus, c'était quoi la question de... Ah oui, j'ai juste comme défini justement ce qui était la démarche scientifique. Mais après,
moi, j'étais comme, on va faire ça rapidement pour la deuxième. Non, mais je vais ajouter. Je t'agace, c'est super pertinent.
Mais ouais, le grosso modo, on disait comme les différentes études qui existent et tout ça. Ouais, OK. Ben, dans le fond, pour revenir à quand on parlait des lampes de poche, ben, les différents types d'études, c'est comme différents types de lampes de poche qu'on peut utiliser. On peut distinguer, j'aurais comme trois catégories. Ben, en fait, peut-être deux, mais disons les études, par exemple, les revues systématiques, les méta-analyses dont on a parlé tout à l'heure, où là, on vient regarder un paquet d'études, on les met ensemble, selon certains critères, et on vient regarder, grosso modo, qu'est-ce que la littérature scientifique dit sur un sujet. Vous avez peut-être déjà vu, puis peut-être les auditeurs aussi, l'espèce de pyramide des évidences où souvent les méta-analyses des revues systématiques vont comme être sur le dessus. Ça, c'est justement parce qu'on vient regarder tout ce qui se dit dans la littérature sur un sujet, ce qui peut nous donner un portrait, tu sais, plus global de l'état de la science sur un sujet. Par contre, les revues systématiques, les méta-analyses ont leurs faiblesses. Ça se peut que justement, en mettant trop de choses ensemble, on vient perdre certaines différences intra-individuelles, certaines nuances et tout ça. Puis, ce n'est pas toutes les revues systématiques et les méta-analyses qui sont parfaites. Elles peuvent avoir des failles méthodologiques et tout ça. Donc, c'est important en tête de garder qu'il n'y a pas un type d'étude qui est parfait. Ils ont chacun leurs limites. C'est vraiment en mettant différents devis ensemble qu'on va avoir plus se rapprocher d'un consensus scientifique. Donc, il y a ça. Ensuite, on peut distinguer les études observationnelles des études d'intervention. Donc, ça, en nutrition, c'est particulièrement intéressant et c'est aussi un gros défi. Donc, les études plus observationnelles, on peut penser justement aux études de cohorte. Donc, c'est une... Puis, ça peut soit être rétrospectif ou prospectif. Donc, prospectif, je prends 100 000 individus, on part aujourd'hui et je les suis pendant 10 ans. Et pendant ces 10 années-là, une fois par année, on va leur faire remplir un questionnaire de fréquence alimentaire, puis on va faire un examen médical. Et dans 10 ans, bon, on va regarder selon ce que les gens ont mangé, qui a développé un cancer, qui a développé le diabète, puis on va essayer de faire des corrélations avec ça. Le défi, c'est que, bon, puis on revient aussi un peu tantôt, comprendre la nuance entre une corrélation puis un lien de causalité. Une corrélation ne permet pas d'établir un lien de causalité. Donc, c'est pas parce que, OK, oui, on voit que les gens qui mangent plus de fruits ont une incidence du cancer qui est moindre. On peut avoir une relation très forte entre ces deux variables-là, mais on peut pas venir dire que c'est le fait de manger des fruits qui a causé une diminution du cancer. Donc, l'information, elle est pertinente, elle est valide, mais ça, c'est une nuance importante. La seule façon de venir établir un lien de causalité, c'est quand on vient directement donner une intervention. Puis ça, ça se fait avec les essais cliniques. Donc, on peut passer aux essais contrôlés, randomisés. Puis avant de penser sur ça, quand je parle des études de cohorte, ça peut être aussi rétrospectif. Donc, je prends des données qui ont déjà été récoltées dans les 10 dernières années sur une cohorte. Et tu sais, là, j'ai déjà les données et tout ça. Puis là, je peux venir faire des relations entre certaines variables et tout ça. L'étude de cohorte, ce qui est le fun, c'est que ben, tu peux choisir toi quelle variable que tu veux venir mesurer. Par contre, ça coûte plus cher parce que tu suis des gens dans le temps, alors que rétrospectif, les données sont déjà là. Mais s'il y a certains trucs que tu voulais mesurer, ben c'est ça. Ça a déjà été mesuré. Oui, Vanessa?
Ben, je voulais juste ajouter là-dessus pour faire le pont avec ce qu'on disait tantôt, que ce qui est un enjeu, dans le fond, puis peut-être une problématique, mais avec laquelle on doit vivre, c'est que, justement, c'est difficile d'avoir l'information dans ces études-là, d'avoir une information qui est parfaite, dans le sens que sinon, ça va être des données qui sont rapportées. Puis même si, justement, le participant, ben, il est plein de bonne volonté, ben, on est particulièrement mauvais pour évaluer qu'est-ce qu'on mange. Fait que c'est là aussi que ça devient, tu sais, un défi, mettons, de la science.
Ouais. Oui, exactement. Je suis passée vite justement parce que j'essaie d'être un peu plus brève pour respecter le temps. Mais tu sais, ça, c'est un très bon point justement où les outils qui sont utilisés pour quantifier l'alimentation, si tu suis 100 000 personnes, tu sais, ce qui est considéré comme la mesure de référence en ce moment, c'est les journaux alimentaires qui peuvent être entre 3 et 7 jours. Donc, essentiellement, c'est des gens qui vont écrire tout ce qu'ils consomment dans une journée. Tu sais, c'est pas mal le mieux qu'on puisse faire, mais encore là, il y a différentes limites de est-ce que les gens vont oublier, est-ce qu'ils vont changer leur alimentation. questions parce que là, bon, ils doivent rédiger tout ce qu'ils vont écrire. Ça, des fois, on va le voir. Ça peut être un biais qui est induit. Puis aussi, tu sais, OK, c'est la meilleure façon qu'on a en ce moment, qui, oui, est imparfaite, mais sur 100 000 personnes, collecter 100 000 journaux alimentaires, les analyser, les entrer dans une base de données, ça demande des gens. Et donc, pourquoi on va davantage se tourner vers les questionnaires de fréquence alimentaire qui sont plus utiles, mais qui ont leur faiblesse aussi parce que, comme tu dis, c'est auto-rapporté, on peut oublier, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Fait que bref, ça, c'est un des grands défis. Puis pour arriver finalement aux essais contrôlés randomisés, ça, c'est l'idéal, mais en nutrition, c'est très, très difficile parce qu'encore une fois, ça coûte très cher. Pour avoir une taille d'échantillon qui est intéressante, c'est difficile aussi au niveau du recrutement. C'est un des gros enjeux en recherche clinique. Puis, il y a aussi le fait que l'intervention qu'on donne, il va avoir une différence. Si c'est un supplément qui est pris quotidiennement pendant 6 mois, 1 an, c'est plus facile que si on prescrit une diète particulière pendant une longue durée de temps. Là, c'est bon, comment est-ce que la diète, elle est prescrite? Est-ce que c'est des informations qui sont données à la personne puis elle doit manger d'une certaine façon par elle-même? Là, est-ce que la personne va adhérer à l'intervention pendant une si longue période de temps? Comme tu dis, on dépend de la bonne volonté des gens. Il y a aussi si on fournit les aliments aux gens. Donc là, on vient éliminer ce biais-là, mais encore une fois, ça coûte très cher. On a l'enjeu d'adhérence de est-ce que tu mangerais pendant 6 mois ce qu'un centre de recherche te donne? C'est ça. Je vois Vanessa qui fait non de la tête. Il y a des gens qui sont motivés, qui le font, mais c'est un gros défi. Puis il y a un autre.
Tu économises beaucoup d'épicerie aussi en faisant ça. Là. C'est avantageux.
Ouais,
ouais. Toi, t'es partante, Sab.
Ouais, mais ça mange
pas. J'aime mieux
payer. Puis sinon, une autre des façons de faire, puis je lisais un texte sur ça récemment, puis tu sais, ce serait l'idéal, mais encore une fois, l'argent et le recrutement, c'est que les gens habitent dans le centre de recherche pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de mois, où là, tout dans l'environnement est contrôlé. Fait que vous comprendrez que étudier, justement, c'est très, très difficile en nutrition. C'est un des gros enjeux. Tu sais, j'entends souvent l'argument de, mais mon Dieu, tu sais, la science de la nutrition est basée sur des études juste observationnelles et tout ça. Ben oui, effectivement, c'est un gros enjeu avec lequel on doit composer. Les études observationnelles ne sont pas achetées aux poubelles, pas du tout. On peut faire des très bonnes études de qualité, mais il faut comprendre qu'on compose avec un enjeu qui est très difficile, puis on a un peu les mains liées par le financement de recherche qui est très limité et aussi la participation de la population, d'une population particulière justement sur ça. Donc, il existe d'autres sous-catégories d'études observationnelles. Donc, on peut penser les études transversales. Donc, ça, au lieu de suivre des gens dans le temps, c'est comme une capture d'écran de « OK, aujourd'hui, j'ai 1000 personnes. Aujourd'hui, la date du jour, disons, quel est l'état de santé de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles mangent? » Puis, on a comme, c'est ça, une capture d'écran dans le temps de ce qui se passe. Donc, c'est ça, il existe beaucoup de devis différents, puis le choix d'un bon devis de recherche va largement dépendre de la question de recherche qui nous intéresse, de là l'importance de bien la définir au début. Mais tu sais, grosso modo, je pense qu'il est à garder en tête, c'est que il n'y a pas un devis qui est parfait. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses et on a besoin malgré tout de tous ces devis-là qui vont être capables de mettre une lumière de poche, une lampe de poche justement, à un endroit différent pour avoir un portrait global.
Oui, mais c'est vrai, plus qu'on observe la situation sous un angle différent, plus que ça nous donne justement une image globale. Puis j'aimerais ajouter aussi, tu sais, je t'écoute parler, puis tu sais, c'est fou à quel point des fois, justement, on est rapide sur la critique. Puis tu sais, justement, comme tu dis, mais les études en nutrition, mais tu sais, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi. Puis tu sais, des fois, c'est que justement, il faut se questionner sur le revers de la médaille. Puis c'est que, veux pas, il faut composer avec des enjeux qui sont réels, dont l'enjeu du financement. Puis c'est ça, l'argent mène le monde.
Oui, puis tu sais, le dernier petit devis, si on veut, ben, qui est plus ou moins un devis, mais tu sais, si on tombe, tu sais, je vous parle d'études qui sont faites chez des humains, il y a tout en dessous l'aspect préclinique qui est la recherche fondamentale qui est faite sur des cellules, sur des souris, donc sur des modèles. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas appliquer directement ce qui est fait sur une cellule ou une souris à un humain. Par contre, ces études-là sont également très importantes parce qu'elles vont permettre de venir comprendre le mécanisme derrière un phénomène qui est observé. Tout est super contrôlé. Tu veux vraiment venir voir bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de tel récepteur quand j'ajoute tel polyphénol provenant du bleuet. Est-ce que, encore une fois, comme tu disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'on met ce polyphénol-là dans la complexité du corps humain, que c'est ce qui va se passer, mais ça fait aussi partie des choses du genre d'évidence dont on va avoir besoin.
C'est ça, c'est que la recherche fondamentale, comme tu dis, est hyper importante pour aller comprendre les processus, mais peut-être un raccourci intellectuel qu'on pourrait faire qui justement pourrait mener à de la désinformation, c'est de prendre un peu, comme on disait tantôt, de prendre une conclusion tirée en recherche fondamentale puis de l'appliquer dans notre quotidien. Ça pourrait contribuer à justement partager de la mauvaise information parce que le contexte est différent.
Oui, exactement. Puis, tu sais, ça fait un peu le pont à ce qu'on mentionnait au début, qu'on peut avoir l'impression justement que l'information se contredit, que ah, un jour boire du café c'est bon, l'autre jour boire du café c'est non. Mais, tu sais, si on s'est basé sur un grand titre qui faisait référence à une étude fondamentale, tu sais, mettons que tu reviens au niveau des chercheurs, bien, pour eux, c'est pas une controverse, c'est pas une contradiction. C'est juste qu'on a regardé deux questions avec deux méthodologies différentes qui ont tous les lieux d'être, mais qui sont pas nécessairement comparables l'une à l'autre.
Puis, tu sais, des fois, justement, en tant que professionnel, bon, ben là, on sait justement qu'on doit regarder, mettons, la littérature pour avoir des informations qui sont justes et pertinentes. Puis, ben, souvent, ben, comme je te disais, la littérature, c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps à regarder, à comprendre, puis tout. Puis, ben, un raccourci qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est de lire juste la conclusion. Mais on sait très bien que ça peut nous mener en erreur. Puis, peux-tu nous expliquer justement pourquoi? Quoi, ça peut être un problème de lire juste la conclusion, puis tu en as parlé un petit peu tantôt quand tu parlais de la méthodologie, mais justement, pourquoi c'est important de porter attention, un regard sur les autres parties de la science, bien de l'étude, puis pourquoi c'est un piège de lire juste la conclusion?
Ouais, ben tu sais, je pense que ça dépend aussi de l'intention du départ de, tu sais, si je regarde la littérature scientifique pour regarder si une certaine intervention est pertinente pour mon patient. Ben, tu sais, ton patient, est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que c'est un adulte, un enfant? Il a quel âge? Est-ce qu'il y a d'autres conditions de santé? Blablabla. Alors que, puis ça revient justement à la méthodologie de sur quelle population c'est étudié. Si là, tu vas lire une conclusion, mais que tu as manqué dans la méthodologie que c'était sur des souris, ben là, tu vas venir regarder une conclusion qui ne s'applique pas à ta population d'intérêt. Et tu sais, la manière dont l'étude est bâtie, tu sais, si on regarde une étude observationnelle versus un essai contrôlé, randomisé à double insu, si on a le luxe d'avoir ça. Donc, double insu, c'est quand ni le participant ni le chercheur ne sait qui reçoit l'intervention. Ben, tu sais, ça va venir déterminer si ce que tu lis, ben, est-ce que tu peux établir un lien de causalité. Donc, tu sais, il y a tous ces détails-là. En fait, je te dirais que un des gros morceaux pour être capable de définir si une étude est crédible et si la conclusion que tu lis peut s'appliquer à ta population d'intérêt, mais c'est toutes des choses qui vont se trouver dans la méthodologie. Puis, tu sais, oui, dans le résumé qu'on va voir, tu sais, quand tu cliques sur un titre d'article sur PubMed, qui est comme la grande librairie qui va avoir c'est presque tous les articles scientifiques dans le domaine biomédical révisés par les pairs. Tu vas lire le résumé, puis oui, tu as quelques informations qui sont données dans la méthodologie, mais il n'y a rien comme aller consulter, tu sais, l'article dans son ensemble, quel type de statistiques ont été faites, puis tu sais, si on reprend les études observationnelles, bien, mettons que je m'intéresse à deux variables, tu sais, pour reprendre mon exemple de l'exposition au soleil puis de la vitamine D, bien, est-ce que j'ai été contrôlée pour l'âge, le statut socio-économique, le niveau d'éducation, l'alimentation, l'activité physique, le tabagisme, si, ça, puis ça, c'est des choses qui vont pas nécessairement faire partie de les quelques phrases de la conclusion. Donc, tu sais, le danger de juste lire la conclusion, c'est de venir tirer soi-même des conclusions sur un sujet sans avoir toutes les nuances qui sont très importantes pour être capable de bien l'interpréter et l'appliquer adéquatement. Fait que grosso modo, je te dirais que c'est pour ça.
Puis
fait que
j'avais
le résumé, ah, excuse Vanessa, dans le fond,
non, vas-y.
le résumé, ça serait quand même bien parce qu'on va voir un peu la méthode là-dedans, puis si ça a été appliqué aussi sur des souris, là-dedans, on le voit aussi.
Oui, absolument.
Moins précis, mais d'une autre façon, ça devient long de lire toute l'étude au complet, là.
Souvent, de toute façon, c'est juste à ça qu'on a accès, justement, quand on n'a pas accès à tout ce qui est PubMed par le biais de l'université.
Oui, exactement. Puis, Sabrina, c'est un point important que tu mentionnes aussi, que tu sais, qu'on veut se renseigner dans la littérature scientifique. Lire un article scientifique, là, ça prend pas 10-15 minutes, là. Tu
Non.
sais, le lire au complet, tu sais, c'est un 7-8 pages, c'est lourd, c'est dense. Là, après, tu sais, tu vas rarement lire juste une fois, tu vas repasser, tu vas rechercher, tu sais, plus en détail certains termes, certains tests statistiques que tu sais peut-être pas nécessairement c'est quoi. Donc, ça prend du temps. Et pour se sauver du temps, c'est une question que j'ai des fois de, ben, tu sais, comment être efficace dans ta lecture d'articles scientifiques, choisir les bons mots-clés dans ton moteur de recherche, tu peux faire un filtre sur le nombre d'années. Donc, OK, je veux les publications récentes, donc entre 2015 et 2022, par exemple, je veux des études sur des humains. Il y a un filtre qui existe sur PubMed que tu peux utiliser pour ça. Puis moi, souvent, je vais faire un premier tri par les titres. Je vais aller lire les résumés. Puis après, selon les résumés, bien là, je vais choisir les articles qui vont me demander toute mon attention de venir le lire au complet. Puis, tu sais, juste le résumé, ça donne pas tout, mais comme tu dis, c'est quand même un très bon point de départ pour déjà venir regarder, OK, bien, ça a été fait avec des questionnaires de fréquence alimentaire, des journaux alimentaires, OK, souris versus humains chez une population pédiatrique versus une population adulte, chez une population qui vit déjà avec le diabète de type 2 versus une population en santé. Donc, déjà avec ça, tu sais, il faut vraiment regarder à, tu sais, quelle est notre population d'intérêt et à quelles questions on veut venir répondre.
Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter aussi parce que j'avais eu la discussion dans un épisode précédent avec Didier Brassard, puis il avait amené un point auquel j'aurais pas pensé puis que je trouvais super pertinent, c'est par rapport justement au financement dans la recherche. Tu sais, comme il disait comme lui, il avait travaillé en recherche sur une étude en lien avec les produits laitiers, puis c'était financé justement par les produits laitiers là, finalement. Puis il disait que t'sais, en tant que chercheur, il dit pas vrai que t'sais, on va changer nos résultats. T'sais, il dit c'est rigoureux. On peut pas t'sais, aller biaiser notre science en fonction de qui va avoir financé la recherche. Par contre, il dit le danger, si tu lis juste la conclusion, c'est que peut-être justement que la personne qui va rédiger l'étude au moment de la conclusion, ben peut-être que c'est même pas conscient, mais peut-être qu'elle va sentir la pression justement en lien avec qui va avoir financé l'étude, puis qu'à ce moment-là, peut-être que la manière dont la conclusion va être présentée, ça va peut-être être un petit peu à l'avantage de qui a financé l'étude, alors que justement, si tu sais, parce que l'auteur est responsable de la conclusion qu'il va tirer, mais l'auteur n'est pas responsable des résultats obtenus, tu sais. Fait que là aussi, je pense qu'il y a peut-être un petit terrain glissant, puis je trouve ça super pertinent aussi comme nuance.
Absolument. Puis tu sais, si je peux faire un peu de millage là-dessus, puis j'ai un exemple en tête qui va peut-être bien l'illustrer, tu sais, pour les auditeurs pour lesquels ce concept-là est peut-être pas aussi clair. Puis effectivement, tu sais, la conclusion, c'est là où tu viens infirmer ou confirmer ton hypothèse. Tu sais, c'est comme blanc ou noir. Puis tu sais, oui, à un moment donné, il faut que tu viennes confirmer ou infirmer ton hypothèse, mais tu sais, elle est infirmée ou elle est confirmée selon X, Y, Z, selon un paquet de paramètres aussi. Puis ça, encore une fois, ça fait référence à la méthodologie, le type d'analyse statistique qui a été faite. Puis par rapport au financement, tu sais, je veux faire réaliser aux auditeurs aussi que les fonds publics, en fait, qui sont justement, tu sais, des fonds qui ne proviennent pas des entreprises, qui ne viennent pas des compagnies privées et tout ça, il y a seulement entre 10 et 15% des chercheurs qui obtiennent des subventions venant des fonds publics, donc tu sais, qui ont comme pas de conflit d'intérêt ou rien, donc c'est excessivement contingent, excessivement difficile à avoir. Donc j'ai beaucoup de compassion pour les chercheurs justement qui ne vont pas être capables d'obtenir ce financement-là, qui vont finir par se tourner vers des subventions venant des compagnies privées et tout ça pour être capable de faire leur recherche, parce qu'ultimement, comme chercheur, je veux dire, t'es passionné par un domaine, tu veux faire ta recherche. Et ce n'est pas justement, c'est un point super important que Didier a mentionné justement, que c'est pas parce que tu reçois du financement d'une entreprise, d'une compagnie privée, que ça te donne le droit de falsifier tes résultats. Dans tous les cas, ça, c'est de la fraude. C'est une grave faute au niveau de l'intégrité scientifique. Par contre, ce qui peut arriver justement qu'on reçoit du financement, ça dépend. Si tu peux avoir une entente justement de non-divulgation, si disons tu as des résultats qui sont complètement négatifs, ben ça se peut que tu aies un contrat justement qui fait que tu ne peux pas les publier. Par contre, ça te donne pas le droit de publier des résultats, mais en changeant les conclusions, en changeant les chiffres, encore une fois, c'est de la fraude. Par contre, un exemple qui peut être effectué, puis ça justement, ça revient à l'importance de la méthodologie. Tu peux mettre une étude sur pied justement qui a une méthodologie qui va déjà en partant venir un peu favoriser le produit de la compagnie qui est financée. Puis un exemple qu'un de mes professeurs m'avait donné que je trouvais super intéressant, puis c'était dans une compagnie qui vend du jus d'orange. Puis comme vous savez, le jus d'orange ou le jus en tant que tel, on va souvent plus recommander de consommer le fruit parce que tu as toutes les fibres qui viennent avec, qui sont bénéfiques pour la santé intestinale, qui vont ralentir l'augmentation de la glycémie, donc du sucre dans le sang, suivant sa consommation. Et donc, les compagnies se sont dit maintenant, mais hey, on va venir ajouter des fibres fonctionnelles dans le jus. Comme ça, ben, on vient régler le problème des fibres. Et le prof nous racontait qu'il était dans ce labo-là à ce moment-là, qu'il avait reçu, la compagnie avait justement des nouveaux jus qui contenaient des fibres, puis il voulait faire une étude pour voir justement est-ce que c'est bénéfique au niveau de la glycémie après la consommation du jus. Et ils avaient reçu comme consigne, vous pouvez comparer le jus avec les fibres avec n'importe quoi, sauf une orange.
Ouais.
Ben, justement, fait que, là, tu vas publier puis dire « OK, les fibres fonctionnelles ont un effet bénéfique sur la glycémie. » Cool. Ça, ce serait la ligne de la conclusion. Mais quand tu vas fouiller après, ben là, est-ce que c'est meilleur qu'une orange? Est-ce que c'est aussi bon? On ne le sait pas, ça n'a pas été fait. Mais encore une fois, il n'y a pas eu, c'est une méthodologie qui est peut-être un peu défaillante pour ça, mais il n'y a pas eu de falsification de données. La démarche scientifique a été respectée, mais on a volontairement mis de côté un élément. Fait que ça, c'est important à garder en tête. Puis, il y a malgré tout des bonnes études qui peuvent être publiées par l'industrie. Je pense que c'est juste que quand on voit qu'il y a ce conflit d'intérêts-là, il faut juste être plus critique puis venir fouiller un peu plus au niveau de la méthodologie, ce qu'il peut avoir. Puis c'est ça, puis remettre encore une fois cette étude-là dans le même bassin que toutes les autres pour avoir une image globale.
Fait que pour conclure, je pense qu'on va conclure avec ça parce qu'on a fait un beau topo, c'était vraiment, vraiment pertinent. J'ai une question pour toi, qui est une question d'opinion et non de fait.
Ouh là là!
Est-ce que tu penses que toutes nos recommandations en nutrition devraient être basées sur la science?
Oh là là, bonne question. Je vais te dire oui, mais. Oui, et en fait. Tu sais, on parle beaucoup de la pratique basée sur les données probantes, puis un espèce de diagramme de Venn avec trois ronds que je trouve, tu sais, qui est super important, c'est que nos recommandations, tant au niveau, ben, tu sais, disons plus d'un point de vue, tu sais, individuel en pratique clinique, c'est oui, les données probantes, mais il y a aussi le désir de notre client, de notre patient, donc la volonté de la personne qui est devant nous, et également notre expérience comme clinicien. Ça, c'est, je pense, ces trois champs qui vont devoir dicter les recommandations qu'on va donner, puis même au niveau de la santé, des recommandations pour la population générale, il y a oui les données probantes sur lesquelles on doit se baser. Ça, je crois que c'est encore très important, la démarche scientifique. C'est la méthode la plus sûre, la plus solide qu'on a pour se rapprocher de la vérité autant que possible sur une question. Mais il faut également tenir compte du contexte socio-culturel, de l'environnement. Puis, tu sais, l'environnement, oui, tu sais, le milieu dans lequel les gens sont. Mm-hmm. Mais également, je crois, en 2022, il faut absolument tenir compte de l'impact sur la planète, sur vraiment l'environnement en soi, tu sais, puis même si, disons, on avait des évidences comme quoi la consommation de viande rouge était absolument bénéfique pour la santé, je crois pas que ce serait éthique, même si ce serait basé sur les données probantes, d'avoir cette recommandation-là. Disons que, hypothétiquement, on recommandait de manger de la viande 3 fois par jour, 7 fois par jour, et pas 7 fois par jour, 3 fois par jour, c'est 7 jours par semaine. Mm-hmm. Même si on avait des données probantes sur le sujet, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce serait éthique, moralement pour notre société d'avoir cette recommandation-là parce qu'on a, oui, il y a la science, mais il y a aussi dans quel environnement, dans quel contexte on doit le mettre. Donc, oui, les données probantes, mais l'environnement, absolument, puis dans un contexte clinique, la volonté de la personne devant soi, parce qu'ultimement, le client est au centre de l'intervention.
Mm-hmm. Puis je terminerai en disant aussi que on est les, puis là, je pense à Claudia Hull, notre collègue nutritionniste, quand je dis ça, mais on est les propres experts de nos vies, et donc, tu sais, si un client te dit que moi, je fais telle affaire, je mange telle affaire, je me sens de telle manière, même si la science nous demande des choses inverses ou contraires, que ce soit au niveau physique ou psychologique, tu sais, la personne, justement, est libre de s'alimenter de la manière qu'elle le veut, puis, tu sais, elle reste la propre experte de sa propre vie, de ses choix. Donc, nous, on est là pour la guider, mais en aucun cas, justement, pour lui imposer des choix. Oui, la science, c'est un très bon guide, effectivement, mais l'humain et comment on se sent aussi, je pense, l'intuition, puis de plus en plus, on se tourne vers ça aussi, là. L'intuition est également un bon guide.
Oui, absolument.
Donc, merci, Foul, Myriam, pour ton temps. Ça a été vraiment intéressant, encore une fois. Je suis toujours surprise de voir à quel point ça peut être passionnant, la science. Écoute, peut-être que finalement, je vais finir dans un labo. Non, il y a très peu de chances. Mais si on a envie d'en savoir plus sur toi, Myriam, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'on peut te jaser, t'entendre?
Oui, bien, la plateforme sur laquelle je suis la plus active, où est-ce que je peux répondre rapidement, je suis sur Instagram, donc myriam.baudry.dtp. On peut me rejoindre là-dessus. J'ai une page Facebook aussi qui est là juste un peu par défaut. Myriam Baudry, DTP, nutritionniste diététiste. J'ai mon balado Tête à tête avec la science qui est disponible sur Spotify, Apple, Google Podcast, vraiment les autres. Mon Dieu, j'ai frappé mon micro. Les plateformes habituelles pour les balados. Sinon, tu sais, je suis aussi sur Twitter, LinkedIn, mais tu sais, ça, je suis plus là où je consulte, je publie moins, donc Instagram, vraiment la meilleure plateforme pour me rejoindre. Sinon, je suis récemment sur TikTok aussi. Soyez indulgents, je teste le concept vidéo un petit peu, mais bon, j'ai décidé d'explorer ça un petit peu, là, être créative autrement.
Danses-tu sur TikTok?
Non, moi, je suis encore à être bien sagement derrière mon téléphone à parler. Pas de musique encore, ça va peut-être venir, mais on commence en des petits pas.
Lucia Marcotte a réussi à me faire danser pour une vidéo. Seigneur Jésus, j'en suis encore. Je m'en suis pas encore pour revivre. J'adore danser, drôle. Mais on dirait que devant une vidéo, j'étais comme je suis un robot, je suis ben trop mal à l'aise. Ouais, fait que bon, ben merci. Est-ce qu'il y avait autre chose ou tu avais fait le tour?
Je pas non, je pense que c'est. Ouais, Instagram, mon podcast, TikTok, si vous voulez.
Ben, c'est déjà bien en masse, hein?
Mais bon, ben ouais, c'est ça.
Bon, ben merci les filles. Merci à toi aussi, Sab, pour ta présence et tes questions pertinentes.
Merci à vous deux. C'était super intéressant. Puis, tu sais, ben, Vanessa, je sais le travail que ça prend à entretenir un podcast. Donc, bravo pour ce projet-là. Tu sais, qu'on parle de sources fiables d'informations en nutrition. Tu sais, de voir des professionnels, pour moi, s'impliquer en communication scientifique. Faire intervenir des experts, je trouve ça super précieux. Là. Donc, chapeau pour ce projet-là.
Merci. Bye, les filles.
Salut. Bye.
Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours. Donc, si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!